partie à cette table autour de moi, en commençant par l'extrême gauche. Denise Laroutis. Bonjour. Denise Laroutis, qui est directrice de collection à Gallimard, traductrice d'espagnol, membre quasi fondateur de la maison Antoine Vitez depuis le début. Présente avec les fondateurs. Christina Vassro, qui est entre autres, qui est aussi membre de la maison Antoine Vitez, du comité espagnol et la traductrice de Rodrigo Garcia. Heinz Schwarzinger, traducteur d'allemand, traducteur du français vers l'allemand, notamment traducteur de Horvath, Krauss et de beaucoup d'autres. Michel Bataillon, qui est le président de la maison Antoine Vitez. À l'extrême droite, désolé. Cécile Amon, secrétaire générale du Centre national du théâtre à Paris, et qui travaille avec nous à l'élaboration d'un code des usages d'une charte déontologique des traducteurs. On expliquera tout à l'heure les raisons de l'élaboration de cette charte. Daniel Loaiza, traducteur du grec, du latin, de l'espagnol, de l'anglais, conseiller littéraire au théâtre de l'Odéon à Paris, auprès de Georges Lavaudant. Marie Raymond, chargée du spectacle vivant, du théâtre, à l'AFA, à l'Association française d'action artistique, et qui coordonne et dirige en ce moment une vaste opération de théâtre contemporain français en direction de l'Amérique latine. Fernando Gomez Grande, organisateur et directeur du festival. Collaborateur du festival d'Alicante, traducteur du français vers l'espagnol. Et puis donc moi-même, Laurent Mulhaizen, directeur artistique de la maison Antoine Vitez. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la maison Antoine Vitez, c'est sa raison d'être et sa fonction, en deux mots, la maison Antoine Vitez est le centre international de la traduction théâtrale. Elle a été fondée, inaugurée en 1991, par Jacques Nichet et Jean-Michel Desprats autour d'un groupe de traducteurs de diverses langues, à la suite d'une tenue d'assises à la TLF, à l'Association des traducteurs littéraires de France, consacrée à la question du théâtre, et où surgit un certain nombre de questions et de problèmes relatifs à la spécificité des métiers de traducteur de théâtre, qui n'est pas le même que celui de traducteur littéraire, parce que les enjeux du théâtre sont autres que les enjeux de l'édition. Il suffit de penser à l'oralité et aux exigences de la scène. Et qui s'est installé à Montpellier, qui est toujours installé à Montpellier, qui est subventionné par le ministère de la Culture, et qui est une grosse association de traducteurs professionnels de théâtre qui, répartis en différents comités linguistiques, alors les comités varient en taille en fonction de l'importance de la langue, il y a un comité lituanien où il y a une personne, et un comité anglais où il y a une trentaine de personnes, pour vous donner à peu près l'éventail, et ces traducteurs trouvent à la maison Antoine Vitez un toit, c'est-à-dire un endroit où ils peuvent faire valoir leurs droits et exercer une partie de leur activité, qui est l'activité de recherche, d'exploration des dramaturgies essentiellement contemporaines étrangères. Et tous les ans, la maison donne des aides à la traduction pour un total d'une vingtaine, entre 20 et 30 pièces, de à peu près 25 à 26 langues différentes, je crois, aujourd'hui. allant de l'islandais au vietnamien, au coréen, au chinois. Et c'est donc la maison est véritablement faite pour et par les traducteurs. Voilà, je vais pas m'étendre davantage sur la maison pour le moment, et on va entrer dans le vif du sujet, qui est la question de la position du traducteur, la part, l'activité du traducteur dans le processus théâtral. Il est clair que lorsqu'un spectacle est monté en France, qu'il s'agisse d'un spectacle d'une troupe étrangère invitée en France ou d'une pièce étrangère traduite en français, la question du passage d'une langue à l'autre, qu'il s'agisse de surtitres, qu'il s'agisse de traduction, qui va être dite par des comédiens, nous paraît en tout cas centrale. La position, alors, en sous-titre de cette table ronde, est écrit « Encore un métier impossible ». Peut-être vous demandez pourquoi les traducteurs considèrent que leur métier peut-être pas impossible, mais en tous les cas difficile. C'est de ça dont on va essayer de parler en donnant la parole aux différents traducteurs qui sont là, qui vont vous faire part de leurs expériences, qu'il s'agisse de textes commandés ou de textes découverts par eux, qu'ils essayent de transmettre et de faire passer dans le paysage théâtral français. Mais aussi en vous évoquant une part importante des activités de la maison de la pièce, qui est la défense des traducteurs et l'élaboration d'une charte, d'un code de déontologie des traducteurs de théâtre. Parce que, effectivement, la position du traducteur théâtral de théâtre, de pièce de théâtre, dans le processus de création, n'est pas toujours facile, n'est pas toujours reconnue, pas toujours appréciée à sa juste valeur. Alors, avant de donner la parole à Cécile Amon, juriste et secrétaire générale du Centre national du théâtre, avec laquelle on a élaboré cette charte, c'est peut-être intéressant que les traducteurs présents autour de cette table, et peut-être Michel Bataillon en premier, évoque la question de la traduction, la question de la place du traducteur dans la maison théâtrale, dans le théâtre, et la place de le rôle du traducteur dans le processus de surtitrage lorsqu'on fait venir des pièces étrangères. Alors,
je vais prendre la parole en premier, s'il va permettre à Denise de préparer son intervention.
Tu peux parler tout de suite.
Oui, je peux souligner un point sur la. Je voulais souligner un point sur le travail du traducteur au sein de la maison Antoine Vitel, du traducteur de théâtre au sein de la maison Antoine Vitel, mais aussi en général, mais plus particulièrement au sein de la maison de vitesse, c'est le travail de lecture et de débroussaillage des différents domaines de théâtraux auxquels nous avons affaire dans chaque langue. C'est-à-dire que notre travail, c'est évidemment de traduire, mais d'abord de lire le théâtre qui se fait, de prendre connaissance, de voir, d'aller voir des pièces, c'est ce qu'on peut faire par exemple à Mire, de lire des quantités très grandes de pièces, c'est-à-dire tout ce qui peut se faire au sein des comités scientifiques, enfin littéraires, de tout ce qui peut être à notre portée en tant que pièces de théâtre, c'est-à-dire des pièces de théâtre qui sont déjà publiées, des pièces de théâtre qui sont jouées, mais aussi qui ne sont pas ni publiées ni jouées. Et à partir de cette connaissance globale de théâtre qui se fait dans chacune des langues auxquelles nous avons affaire, de faire des choix et de présenter des possibilités de traduction à nos différents comités et à l'association de la Maison de la Vitesse, de manière à pouvoir traduire des pièces qui nous semblent vraiment devoir être traduites, importantes, et les mettre ainsi dans le circuit professionnel en France, de façon que les gens de théâtre, les directeurs, les lecteurs, les personnes qui sont conseillères dans les différents théâtres, aient un corpus de théâtre contemporain dans lequel ils puissent puiser. Ils ont d'ailleurs à disposition à la Maison de Vitesse toutes les pièces qui ont été traduites par les différents traducteurs. Et ainsi, c'est tout un corps de textes de qualité, dans des traductions de qualité qui sont mises à la disposition des gens de théâtre. C'est aussi une des intérêts très forts que présente la Maison Antoine Vitesse, c'est cette somme de lecture, cette mise en comparaison, cette espèce de pesée des pièces qui se font et de leur découverte, au fond, auprès d'un public français, dans un premier temps, qui est celui de la traduction. C'est une mise à disposition de la création contemporaine, théâtrale, presque mondiale, une espèce de réseau qui s'est créé avec d'autres traducteurs étrangers également, avec les écrivains de théâtre à l'étranger. Et je crois que ça, c'est très précieux, cette lecture que nous faisons des textes. Voilà, c'était le petit point que je voulais soulever.
Je veux revenir sur le point d'origine de cette maison avec deux anecdotes, deux petits récits. Premier petit récit, la maison est née de la rencontre à Strasbourg d'un homme de théâtre, Jean-Pierre Vincent, qui dirigeait à l'époque le Théâtre National de Strasbourg et qui se trouvait confronté à des problèmes de traduction, notamment à des pièces de Shakespeare. Et il y avait à l'université un jeune homme, Jean-Michel Desprats, qui était un angliciste très intéressé par le théâtre. Ils se sont aperçus que leur rencontre pouvait donner naissance à des échanges extrêmement concrets entre le livre et la scène. Et ils ont fait ensemble un premier travail qui était un épluchage minutieux d'une comédie de Shakespeare difficile, Peine d'amour perdu, qui n'est pas un des textes les plus simples de Shakespeare à cause de sa nature de comédie. Et l'enrichissement dans cet échange a été extrêmement fructueux. Parallèlement, un homme de théâtre qui a été brièvement et brillamment universitaire, qui est assis parmi nous, qui est Jacques Nichet, affrontait des problèmes du même ordre sur d'autres terrains linguistiques. Et Jacques Nichet faisait des expériences analogues. Donc c'est de cette expérience initiale qu'est venue l'idée qu'il était nécessaire de créer un lieu où pourraient se rencontrer les gens de théâtre et les linguistes traducteurs. Donc la caractéristique fondamentale de cette maison, c'est que les gens de théâtre et les traducteurs y sont à égalité, ont les mêmes rôles à y jouer et que la maison est faite pour les faire se rencontrer. Donc ça, c'est un point sur lequel je veux insister, il me semble très important. Autre petit récit, il me semble que c'était en Arles, dans des assises, il y avait dans la salle un représentant de la Société des auteurs, de la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Je pense une partie d'entre vous ne sait pas exactement ce qu'est la SACD. La SACD, c'est une société, elle est théoriquement coopérative, elle est formée par l'ensemble de ses membres, elle a été fondée par Beaumarchais, qui défendait les auteurs et qui essayait d'éviter le vol des textes et le plagiat. Et cette société est un lieu de passage
quasiment inévitable pour les auteurs dramatiques et les praticiens du théâtre. Lieu de passage quasiment inévitable parce que dès l'instant où vous jouez une œuvre d'un auteur qui est membre de la SACD, automatiquement les droits financiers de cet auteur sont prélevés par la SACD et reversés à l'auteur par la SACD. Et dès l'instant où vous avez joué un auteur qui est à la SACD, votre théâtre doit signer une convention et désormais tout ce qui sera joué dans votre théâtre subira le prélèvement de la SACD. Donc c'est une espèce de chose très très curieuse où obligatoirement les auteurs et les gens de théâtre se retrouvent mêlés. Il y avait le représentant de la SACD un jour, il y a peut-être 10 ans, en Arles, et il y a eu un débat extrêmement vigoureux, sans me souvenir que Heinz y participait, sur qu'est-ce que c'est qu'une traduction, pourquoi à la SACD, les traducteurs étaient désignés obligatoirement par le terme adaptateur. Le mot traducteur n'était pas connu du vocabulaire de cette société des auteurs. On était adaptateur. Quelle différence y a-t-il entre une traduction, une adaptation, un texte français, une version française? Mais le débat avait été extrêmement vif. Et ce débat, en dehors de ces problèmes institutionnels, ce débat est un de ceux qui animent la maison Antoine Vitez. Et c'est un débat interne à chaque traducteur. C'est-à-dire que lorsqu'un traducteur aborde un texte de théâtre, il va continuellement se situer dans un espace où il est entre son savoir linguistique et son savoir théâtral. Et la façon dont ce savoir linguistique va se glisser à une date donnée dans le théâtre. L'idée, par exemple, que beaucoup plus qu'une traduction littéraire destinée au livre, une traduction théâtrale s'use. Le fait que il y a des grandes vagues de traduction théâtrale. Si on prend Shakespeare, il y a eu une grande vague au XIXe siècle, incarnée par le fils de Victor Hugo. Après ça, on va avoir une vague extrêmement importante dans les années 30, animée par Gide. On va avoir une vague très importante dans les années 50, animée par Messiaen. Une autre vague va venir après, c'est l'édition Léris bilingue du Globe du Livre. Et puis, il y a eu l'arrivée dans les années 70, précisément de Jean-Michel Desprats et des gens qui l'entourent, qui ont repris le corps Shakespeare. Et à l'heure actuelle, on revient à Shakespeare sous d'autres angles. Daniel Loaiza vous en parlera peut-être, s'il a envie. Donc, cette idée que les traductions théâtrales sont caduques, et pour quelles raisons sont-elles caduques? Elles sont caduques dans ce passage du savoir linguistique au savoir théâtral. Donc je voulais vous raconter ces deux choses-là qui me semblent importantes et qui imprègnent tout le travail qu'on fait à la maison Antoine Vitez. Troisième point, Denise l'a abordé. Il y a des canaux naturels de transmission du théâtre, de diffusion du théâtre. Ces canaux naturels sont très différents dans les différents domaines linguistiques. Il est évident, par exemple, que le domaine anglo-saxon est marqué par une conception du droit et de la défense du droit des auteurs à l'anglo-saxonne et passe très très fréquemment par des impresarios d'auteurs, par des bureaux d'auteurs. Et ceux qui détiennent les textes avant que quiconque y ait accès sont ces maîtres, ces patrons des bureaux d'auteurs. Et ces gens décident de qui traduira, à qui ira le texte, qui aura la priorité de lecture du texte, qui versera des fonds pour bloquer les droits du texte. Il y a une façon de procéder tout à fait spéciale dans le domaine anglo-saxon. Le domaine germanique est régi par des lois complètement différentes. Le domaine germanique est marqué par une chose qui n'existe qu'en Allemagne, le théâtre allemand a des conséquences économiques, la vie théâtrale a des conséquences économiques qui n'existent dans aucun autre pays avec cette importance. C'est-à-dire que le théâtre est un marché en Allemagne. Et ce marché fait que les éditeurs, à l'inverse de ce qui se passe en France, les grands éditeurs de littérature ont en main s'occupent des grands auteurs dramatiques et ont à l'intérieur de leur propre maison d'édition un bureau spécial. Ce bureau gère les droits financiers des auteurs, prélève une part de ces droits financiers pour la marche du bureau et organise la promotion de ces auteurs. Ce qui fait que tous les grands éditeurs allemands, ou les principaux, il y en a 4-5 au moins, ont des bureaux théâtraux. Donc un Verlag, une édition, a à l'intérieur de sa structure un Theater Verlag, qui est une section spécifique pour la littérature théâtrale. Donc ça, c'est une chose qui n'existe qu'en Allemagne, ou en Allemagne et dans le domaine germanique, Autriche, Suisse allemande. Donc voilà le type de choses. Si nous prenons, si on parle des pays slaves, avec la déréglementation globale qui a eu lieu depuis 89, là on est dans une jungle où chacun essaye de trouver des textes. Donc ça, ce sont les canaux qui existent. Denise a insisté sur une démarche complètement différente de la maison Antoine Vitesse. Les membres, c'est un point très important, les membres de la maison Antoine Vitesse sont des personnalités qui trouvent leur intérêt à œuvrer bénévolement à l'intérieur de cette maison Antoine Vitesse. C'est-à-dire qu'ils apportent ce qu'ils savent, ce qu'ils ont envie de partager, et ils sont organisés en comité littéraire, comme Denise et Laurent vous l'ont dit, et ces comités littéraires essayent de prospecter pour eux-mêmes et pour la maison, de voir ce qui naît, et de mettre en circulation des textes qui sont peut-être fondamentaux, mais n'auront aucune chance dans les circuits d'agents, par exemple. Donc la maison Antoine Vitesse œuvre sur un terrain complètement différent des circuits traditionnels de diffusion. Bon, voilà, c'est quelque chose que je voulais dire. Je réinterviendrai beaucoup plus tard parce que l'un des points qui m'intéressera beaucoup dans la discussion, c'est le problème nouveau de la transmission d'index étranger, jouer dans sa langue, dans un pays étranger, la transmission par ce qu'on appelle aujourd'hui les surtitres. Ça pose énormément de problèmes techniques, littéraires, juridiques. Et si la conversation vient là-dessus, je réinterviendrai à ce moment-là.
Bien, puisque tu parlais de la situation dans les pays anglo-saxons et notamment en Allemagne, puisqu'on est quand même dans un débat franco-espagnol, j'en vais en profiter pour passer la parole à Fernando Gómez-Grandet pour lui demander quelle est la place du traducteur de théâtre dans le paysage théâtral espagnol. D'abord, de quoi est fait le paysage théâtral espagnol en termes de textes contemporains.
Buenos días. Me van a permitir que hable en español, que siempre me resulta más fácil, puesto que estamos en un instituto Cervantes, próximos a él, y en Toulouse, una ciudad muy entrañable para España, por muchos motivos que tampoco hay que contar aquí, pues me van a permitir esto. Bueno, yo siempre que participo en algún coloquio en el extranjero me da mucha envidia. Y no es que yo personalmente sea envidioso, sino me da envidia por el trabajo que se realiza en otras partes, un trabajo que ha costado tiempo, que ha costado esfuerzo, y que claro, cuando uno ve la estructura montada en torno a la maison Antoine Vitesse, cómo se trabaja, la calidad de las personas que trabajan en esta maison, etc., pues che, no es que sean más listos, es que lo hacen mejor. Es que han empezado antes, es que han tenido personas que han sabido coger en un momento dado ese momento para poder aglutinar un trabajo efervescente que se estaba haciendo. Desgraciadamente, ni España tiene la tradición anglosajona, es evidente, ni la tradición alemana, ni tiene la suerte de poder, no sé por qué, yo me considero, sabéis muy bien que en España hay los antifranceses y los filofranceses, desde Napoleón para acá, yo estoy al lado de los filofranceses, y una de las desgracias que tenemos es que todavía, hasta incluso nuestro presidente de gobierno, con perdón, que le quedan días, es muy antifrancés, y así nos luce el pelo en Europa. Dicho esto, en España realmente en este momento no hay ninguna institución que se dedique no ya colegiadamente a la traducción literaria, sino a la, y menos a la traducción teatral, eso es evidente. Y cada uno trabaja por libre, como puede, como sabe, como le dejan, e incluso poniendo de su dinero, no solo de su trabajo. Esa es la realidad más absoluta. Cuesta mucho esfuerzo. Yo, que he traducido un número no pequeño de autores franceses contemporáneos, que me siento un poco un barquero, eso que llamáis aquí le passeur, pues un barquero pero de los viejos, es decir, barquero que hace siempre el mismo recorrido, el mismo trabajo, la misma función, pero cada vez con pasajeros diferentes. A veces los pasajeros son entretenidos, otras veces son muy aburridos, pero siempre con los pasajeros, y que a la vez es también uno, un barquero con los autores, con los actores, con los productores, no hay que olvidarlo, con lo cual es el payaso de las bofetadas, porque siempre tendrá la culpa el traductor que no ha entendido el texto. Eso es lo que suele ocurrir. Pues lo que pasa con estas cosas es que en el caso de España, y lo tengo que decir con vergüenza, si las instituciones francesas, me estoy refiriendo a la PA, me estoy refiriendo a la SACD a través de la Asociación Beaumarchais, me estoy refiriendo evidentemente al Colegio de Traductores de Arles, en fin, a toda una serie de instituciones francesas que apoyan decididamente la difusión de los textos contemporáneos franceses. A mí no solo me hubiera costado dinero y salud, sino que me hubiera metido ya en la cárcel porque me hubiera vuelto loco con lo que ocurría con el teatro francés. Es decir, se edita muy poco en España, se edita muy poco teatro, incluido el teatro español, no digo ya el teatro externo, el teatro del extranjero. Y yo voy a contar como anécdota reveladora, y lo siento, no está aquí, me podría contestar, pero como se enterará probablemente me conteste públicamente. Hay una editorial española, que no es una editorial propiamente, sino que es una asociación de directores de escena, ADE, que ha editado hasta el momento 6 obras en 3 volúmenes diferentes de Michel Vinaver. Yo traduzco a Michel Vinaver, me parece algo muy fundamental en la historia de la literatura francesa contemporánea y del teatro francés contemporáneo, y 2 obras recientemente traducidas de él, una de ellas a través de la FAR para Latinoamérica, pues le propuse que, puesto que había 2 obras más traducidas, estaría bien poderlas editar, teniendo en cuenta que además posiblemente en el mes de septiembre, octubre, fuera Vinaver a Madrid a impartir una conferencia y sería aprovechar el momento. La contestación ha sido: hombre, querido Fernando, a mí me interesa muchísimo seguir editando Vinaver, ya sería el 4º volumen, pero mira a ver si puedes conseguir dinero de Francia para que paguen la edición. Punto. Entonces, claro, yo ya no solo tengo que traducir, y traducir gratis en muchos casos, sino que además tengo que buscar el dinero para que alguien edite un libro, que después ese libro va a ser vendido, mucho o poco, da igual la cantidad de euros, pero va a ser vendido y que va a tener un beneficio, con lo cual yo me siento muy imbécil. Sin embargo, ¿por qué se siente un imbécil y por qué quiere seguir siendo imbécil? Pues un poco por lo que ha comentado Obama y Michelle, es decir, porque creemos en esto, es decir, hay algo que va mucho más allá simplemente de estar aquí por negocios, sino que es más, sobre todo, yo creo, por amor. Y el amor, no me voy a resistir, a mí me gustan mucho los dicharachos, las citas de gente, y entonces, a mí me hizo mucha gracia un día un cantador de flamenco, se llama Enrique Morente, probablemente lo conoceréis, excelente cantador. En una entrevista en El País que le hacían, no sé por qué, porque más es un hombre no de cultura, es un cantador de flamenco, ¿no? pero muy sabio, como casi todos ellos, dijo: los traductores son gente muy especial. Habrá tíos que han traducido a Dostoyevsky, la Biblia o el Corán, y no los conocen ni en su casa. Y bueno, pues un poco es lo que está pasando en España. Desgraciadamente hay muchos problemas para introducir, en este caso, el teatro francés contemporáneo. Se hacen avances, yo creo que se ha avanzado mucho desde hace unos cuantos años para acá. El hecho es que con una cierta regularidad se publica teatro francés contemporáneo, con algo menos de regularidad se estrenan autores contemporáneos franceses, y bueno, pues seguimos la batalla. Lo importante es que los franceses sigan escribiendo para que alguien se pueda entretener como yo traduciéndoles. Y nada más, gracias.
On insiste depuis le début de cette rencontre sur la place qu'occupe le traducteur en tant que passeur.
Alors il arrive souvent que ce rôle de passeur entre l'auteur et les lieux, les institutions théâtrales, les lieux de théâtre dans le pays où on apporte la, où on livre la traduction, permettent des rapports privilégiés, une sorte de complicité entre un traducteur et son auteur, et puisse favoriser la compréhension ou l'arrivée de cet auteur dans le pays d'accueil, le pays de la, disons, dans lequel, dans la langue duquel il est traduit. Je voudrais, puisque elle est avec nous, et que cet auteur est aussi présent à Toulouse, que Christyla Vassereau nous parle un peu de cette expérience, de cette relation, de cette qualité de relation entre un traducteur et un auteur qu'il traduit depuis longtemps, qu'il connaît, comment ça se passe, est-ce qu'on s'engueule, est-ce qu'on on se voit dans un pays ou dans l'autre, est-ce qu'on, comment se passe cette relation entre le traducteur et l'auteur?
Dans le cas particulier de Rodrigo Garcia, c'est une traduction où souvent le travail de traduction coïncide avec le travail d'écriture, dans la mesure où beaucoup des traductions que j'ai réalisées de ces pièces ont été faites au fur et à mesure du travail de mise en scène, et le texte s'écrivait au fur et à mesure que Rodrigo travaillait avec ses comédiens et que le texte s'écrivait. Donc j'ai souvent eu à traduire un texte qui m'était donné de façon fragmentaire et dont je n'avais une version définitive et complète que la veille de la première, 3 jours avant la première, voire le lendemain, puisque le texte changeait au fur et à mesure. Bon, ce qui posait des problèmes techniques évidents. Alors ça, évidemment, ce sont des traductions qui sont faites pour le surtitrage. Alors je vais peut-être pas développer ce point-là, puisqu'il était question d'y revenir tout à l'heure. On va voir. Dans ce cas-là, les deux difficultés sont celles du temps. Hein, j'ai peu de temps pour revenir sur la traduction. Je dois traduire sans avoir aucun recul sur le texte que je produis au fur et à mesure, ce qui est absolument inconcevable pour la publication d'une traduction. Et d'autre part, le risque est de traduire pour une mise en scène, c'est-à-dire que les textes de Rodrigo Garcia sont des textes très ouverts, où le texte n'est pas, le texte qui est livré à la lecture n'est pas un dialogue mis en situation, attribué à des personnages en particulier, accompagné de didascalies qui pourraient donner une précision sur la situation d'énonciation du texte. Donc le texte est livré tel quel, ce qui permet au metteur en scène ou au lecteur une grande ouverture d'interprétation. Ce qui est compliqué lorsqu'on traduit en même temps que l'auteur met en scène, c'est de traduire pour cette mise en scène. Et donc, de réduire le champ de lecture, le champ de lecture possible de ce texte. Donc ça, c'est la difficulté de ce travail en coïncidence avec le processus d'écriture et de création. Quant à la relation avec l'auteur, Rodrigo a appris petit à petit le français, mais il ne le parlait pas au début. Donc je n'ai pas tellement eu à me disputer avec lui sur les traductions. J'ai eu à lui poser des questions sur le texte, sur le sens de certaines phrases, sur des interprétations, des lectures possibles de certains passages. Je n'ai pas vraiment parlé avec lui de traduction. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais peu avec les auteurs. Là aussi, on peut revenir sur ce point-là. Je travaille peu en collaboration avec les auteurs, car souvent les exigences de l'auteur ne sont pas celles du traducteur. Alors, je sais qu'on ne sera peut-être pas tous d'accord. Donc j'évite de travailler les traductions avec les auteurs. Quand j'ai eu à le faire, le résultat ne m'a guère satisfait. Donc voilà, quant au travail sur les textes de Rodrigo, donc il y a deux choses, il y a le travail pour la publication et le travail pour le surtitrage. Le travail pour la publication est un travail sur une partie des textes. puisqu'il ne publie qu'une partie des textes qui composent ces spectacles, dans la mesure où une partie des textes qui sont livrés aux spectateurs sont aussi le fruit d'un travail d'improvisation, est aussi le fruit d'un travail d'improvisation avec les comédiens. Ce qui pose aussi le problème de l'autorité du traducteur dans le surtitrage. Quand je parle d'autorité, je parle d'autorité à la fois juridique et morale. C'est-à-dire, si le traducteur signe sa traduction lorsqu'elle est publiée, et on ne peut plus toucher à la traduction du traducteur une fois qu'elle est publiée, dans le cas du surtitrage, c'est beaucoup plus aléatoire. Je vois encore dans les surtitrages des choses que je n'ai pas écrites, des choses que je peux approuver, des choses que je n'approuve pas. Le problème n'est pas là. Bon, évidemment, ça me gêne quand je vois une faute d'orthographe que je n'ai pas écrite ou quand je vois une traduction avec laquelle je ne suis pas d'accord, tout simplement. Mais quand bien même je serais d'accord, je remarque qu'on se permet de toucher au surtitrage parce que la pièce évolue, parce que c'est dû aussi à la spécificité du théâtre de Rodrigo où les textes changent en fonction des tournées parce que les comédiens improvisent. Il y a au bout d'un certain temps un décalage entre la signature, le nom du traducteur et ce qu'a vraiment traduit le traducteur. Voilà, je ne sais pas si...
Est-ce que tu peux nous dire si tu interviens, si tu es arrivé d'intervenir entre les gens de théâtre français et Garcia pour une forme de diffusion ou de promotion de ces textes ou pour porter à la connaissance ces textes? Est-ce qu'à un certain moment, le fait de porter un auteur peut amener à participer activement à sa diffusion?
Dans le cas de Rodrigo Garcia, je réponds maintenant que non, dans la mesure où il a une diffusion qui se fait d'elle-même. Au début, oui, la première fois que j'ai entendu parler de Rodrigo Garcia, c'était justement au Festival d'Alicante. C'était en 96 ou 97, je pense. Et c'est à l'occasion de ce festival qu'on m'avait parlé de Rodrigo Garcia, qu'on m'avait remis des textes de lui, que j'en avais ramené en France, et que j'en avais parlé au comité littéraire. Il se trouve aussi que Rodrigo a eu assez vite du succès. Donc les metteurs en scène sont plutôt demandeurs de textes de Rodrigo Garcia. Après, on peut demander aux traducteurs, effectivement, et beaucoup de metteurs en scène le font, ou en tout cas certains metteurs en scène, particulièrement curieux, le font et demandent aux traducteurs de leur apporter des textes. Puisque j'ai connu dans la salle, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Enfin, demander aux traducteurs si vous avez de nouveaux textes, je suis curieux de lire. Maintenant, c'est vrai que j'ai peu à m'occuper de la diffusion du théâtre de Rodrigo Garcia aujourd'hui. Oui, voilà, donc la publication et l'édition est une forme de diffusion, et là encore dans le cas de Rodrigo Garcia, il a trouvé en France une maison d'édition qui s'occupe de publier régulièrement ses textes. Au fur et à mesure que les spectacles sont montés, les textes sont publiés par cette maison d'édition, qui sont donc les Solitaires Intempestifs. Qui est là aussi, oui, une autre forme de diffusion. Et d'ailleurs, ce que fait aussi la Maison Antoine Vitesse, c'est publier des textes de théâtre en collaboration, notamment soit avec les éditions théâtrales, soit avec les Solitaires Intempestifs. Ce qui là encore n'est pas évident, dans la mesure où le théâtre n'a pas énormément de lecteurs en France. Voilà, et donc le travail de publication est un travail de diffusion risqué dans la mesure où, effectivement, rarement un texte de théâtre est un best-seller.
On va, en continuant nos interventions, se rapprocher un petit peu à la fois
de la question du code des usages et de la question dont on aimerait parler, celle du surtitrage. On a pour le moment évoqué, dressé un tableau des relations possibles en amont, c'est-à-dire du traducteur vers l'auteur, le travail de découverte, de lecture, comme expliquait Denise, les relations privilégiées avec l'auteur. Alors l'étape principale, je dirais, et intermédiaire, le plat de résistance du travail de traducteur, c'est évidemment le travail de traduction, qui peut être un travail solitaire, qui peut aussi être un travail en collaboration avec les autres acteurs de la production d'un spectacle. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais insister, et c'est sur ce point qu'on discute un petit peu. La place du traducteur dans son travail de recherche est une chose, mais quelle est véritablement la place du traducteur dans la maison du théâtre? C'est-à-dire, quel est son rapport avec les metteurs en scène? Comment les metteurs en scène discutent-ils des traductions? Christina a évoqué tout à l'heure soulever une question ou un problème qui était celui de ben, il m'arrive de voir les surtitres avec lesquels que je n'ai pas écrit, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Pourtant, c'est mon nom qui signe, qui est marqué sur la traduction. Donc, il y a, on peut peut-être supposer qu'il y a parfois comme forme de dysfonctionnement dans l'utilisation d'une traduction au théâtre. À quoi sont-elles dues? Est-ce que c'est des problèmes techniques? Est-ce que c'est des problèmes de temps? Est-ce qu'on a le temps de faire appel au traducteur pour lui demander de valider? Et sinon, pourquoi on n'a pas le temps? Comment cela se passe-t-il? Alors, je vais peut-être donner la parole à Daniel ou à Isa, puisque toi, Daniel, tu as une position, tu es dans un théâtre, hein, tu es traducteur, tu as suivi le processus à plusieurs reprises du rôle de traducteur et de conseiller artistique du début, ça, du travail de recherche, de traduction, jusqu'à la production. Où vois-tu des dysfonctionnements, des failles possibles? Qu'est-ce qui te paraît améliorable dans ce processus-là?
Voilà, c'est un vaste programme. Des failles, j'en vois partout, à peu près tous les points du processus. Processus que j'aurais d'ailleurs du mal à décrire. Il est complexe, tu l'as dit, il comprend différentes étapes et il peut englober différents acteurs. Je suis d'autant plus embarrassé pour en parler qu'effectivement, statutairement, je suis un peu à la croisée de plusieurs chemins. On parlait de surtitrage, c'est une question effectivement très intéressante. Elle aussi à la croisée de plusieurs chemins, mais enfin, comment dire, en tant que traducteur pur, si cet adjectif a un sens, il m'est arrivé de produire des textes que j'ai eu la chance de voir monter et pour lesquels ensuite des surtitrages ont été fabriqués à partir de ma traduction. Marie me demandait à l'instant par écrit si j'avais collaboré à l'élaboration du surtitrage de l'Orestie à Barcelone. J'avais traduit l'Orestie du grec pour Georges Laboudan. Ce spectacle a eu la chance de partir en tournée à Barcelone. Il a été surtitré là-bas. C'est quelqu'un que je connais un peu et dont j'apprécie le travail, qui s'appelle Mike Sans, qui avait été chargé de l'élaboration du surtitrage. Je n'y ai pas mis les mains. Je ne sais pas du tout ce qu'il a pu faire. Sinon en général, parce que d'un autre côté, il m'est arrivé moi-même, et je suis en train de le faire en ce moment, de fabriquer des surtitrages à partir de la traduction de quelqu'un d'autre. En ce moment, je suis en train de travailler au surtitrage pour l'Odéon de l'Othello, mis en scène par Donnellan, qui va venir prochainement dans le théâtre. Et je suis en train de travailler à partir de la traduction de Jean-Michel Desprats, dont je regrette d'ailleurs l'absence aujourd'hui parmi nous. Je sais qu'il aurait pu être là. Et je suis convaincu que Jean-Michel Desprats serait horrifié parce que je suis contraint de faire. Parce que, vous vous en doutez, un surtitrage, c'est une question de rythme, une question de spectacle. Tout ce qu'on sait, c'est que le surtitrage ne peut être en masse textuelle qu'inférieur à la traduction littéraire originale, et pour cause, un surtitrage s'est fait pour attraper rapidement du sens au fur et à mesure que le spectacle se déroule. Un surtitrage doit donc être rythmé, et différents surtitreurs auront différentes rythmiques, je suppose, mais en tout cas, il faut que ça aille vite. On ne peut pas balancer des blocs de texte littéral et littéraire au visage du spectateur, qui est quand même censé voir un spectacle pour lire un texte. Donc, dans une certaine mesure, quand on travaille en tant que surtitreur sur la traduction de quelqu'un d'autre, on le sent bien à chaque pas, on fait un peu un travail de bousillage du point de vue littéraire. D'un autre côté, quand je vois non pas en tant que bousilleur, mais en tant que spectateur, le travail que certains surtitreurs sont capables de faire, la virtuosité avec laquelle ils parviennent à convoyer très rapidement un noyau de sens en deux ou trois syllabes, le reste étant à déchiffrer dans la mise en scène et au plateau, je suis plutôt admiratif. Enfin, tout ça pour dire que en tant que traducteur, je ne serais pas nécessairement offusqué si on bousillait une de mes traductions, avec les mecs qui s'imposent, si on bousillait une de mes traductions pour les raisons que j'ai dites. Ça me gênerait en revanche, et je ne demanderais même pas nécessairement à la réviser, ça me gênerait en revanche qu'on se serve de mon nom, ça certainement. Je refuserais dans un cas pareil que ma signature figure au programme. Mais c'est autre chose. Et là, on entre peut-être dans des considérations éthico-juridico-morales dont Cécile serait plus à même de parler que moi. Je m'égare là, non ?
Non. Mais on peut peut-être aussi évoquer le travail de traducteur lorsque le spectacle est donné en français, c'est-à-dire lorsque ta traduction est présentée sur scène. Là, j'ai fait le travail avec le metteur en scène.
J'ai eu là aussi un peu tous les cas de figure. Celui que je préfère, c'est celui par lequel j'ai eu la chance de commencer avec Georges Lavaudan, qui un beau jour m'a demandé de traduire Le Roi Lear. Pour le mettre en scène en 96, quand il est arrivé à l'Odéon. Il m'a demandé de traduire... je lui ai dit, écoute, j'avais jamais vraiment beaucoup travaillé comme traducteur de théâtre, en plus, je vais traduire d'abord un acte, je te jetterai un coup d'œil dessus, si ça ne te convient pas, on arrête là, parce que tu n'as aucune raison d'acheter chat en poche une traduction d'un texte comme Le Roi Lear. En plus, Le Roi Lear, il y en a une bonne série déjà publiée, Michel en a cité quelques-unes. Jaune avait qu'à faire son marché, il n'avait aucune raison de se condamner à monter une traduction qui n'aurait pas plu. Donc l'été 95, je me souviens très bien qu'il a passé une après-midi dans son jardin après le premier acte, puis il m'a dit, c'est très bien, c'est vraiment très bien, je te félicite, mais est-ce que pour l'acte 2, tu pourrais essayer de faire exactement le contraire? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu entends par là exactement? Il dit, ben, bon, si tu veux, tu as essayé de traduire des vers par les vers, la prose par la prose, des vers rimés par des vers rimés, des chansons sous forme de chansons. Mais si tu essayes de faire le contraire de ça, de te lâcher complètement dans l'acte 2. Pendant 3 jours, ça m'a complètement coupé la chic. Je suis parti de chez lui, j'ai réfléchi une semaine et j'ai continué évidemment exactement comme avant. Après tout, il ne m'avait pas dit arrête-toi là, il m'avait juste dit fais le contraire. J'y ai réfléchi pendant une semaine, j'ai renoncé à faire le contraire, j'ai continué. On a pris les 5 actes, on s'est retrouvé à la table, et là est intervenue une part essentielle du travail tel que je le conçois, en tout cas par la traduction théâtrale, qui est la lecture collective avec les comédiens. Et c'était ma première expérience, c'était merveilleux, parce que le texte, évidemment, prenait un relief très très particulier, et surtout tout à fait inattendu. C'est vraiment incroyable, il faut, j'allais dire, le voir, l'entendre pour le croire. Quand on est traducteur et qu'on est un peu scrupuleux, qu'on est professeur, notamment comme moi, qu'on met contre sens, faux sens, dans les marges, etc., on a toujours un peu tendance à se croire très détenteur du sens ou d'une maîtrise du sens, d'un rapport de maîtrise du sens. Et une des grandes leçons, à chaque fois recommencée d'ailleurs du texte théâtral, c'est à quel point effectivement cette maîtrise vous file entre les doigts dès que le travail devient concret, vocal, spatial. Pour le dire autrement, il y avait des traductions. Parfois, Shakespeare faisait une blague. À moi de supposer si cette blague était vraiment drôle ou pas drôle. Et si elle était vraiment drôle, d'après moi, alors à moi d'essayer de la traduire par quelque chose de drôle en français, quitte à sacrifier une certaine littéralité. Bon, là le test était immédiat. Si les comédiens riaient en lisant, c'était plutôt bon signe. S'ils continuaient à feuilleter la brochure sans même avoir souri, je me disais, bon, là j'ai un problème. Excuse-moi, mais tu aurais dû rire, c'est drôle là. Ah, bon. Il y a une sorte, vous savez, comme, c'est un peu comme le travail des profils de voitures en soufflerie dans les usines. Vous pouvez dessiner des choses très très bien sur votre planche à dessin d'ingénieur, mais si ça ne tient pas à la soufflerie, c'est que vous avez une erreur de conception quelque part. Pour moi, la traduction théâtrale relève un peu de ça. Du coup le vieux problème, vous savez, traditore, c'est un peu, dans une certaine mesure, un faux problème. C'est vrai que c'est une tâche impossible, celle du traducteur, et celle du traducteur théâtral est doublement, triplement impossible. Mais d'une façon, c'est l'impossibilité de tout artisanat. Bon, ça c'est le bon côté. Le mauvais côté, ça peut, ou le côté pas mauvais mais décevant, par exemple, ça peut être quand on vous commande une traduction, que vous la faites, que vous la rendez, et que plus personne ne vous en parle jamais plus, et qu'un jour vous recevez une feuille de la SACD qui vous dit, vous avez touché tant de droits sur tel nombre de représentations à tel endroit. Ça m'est arrivé aussi. Voilà. La tâche du traducteur, si vous voulez, elle se situe un peu, en tout cas au théâtre, entre ces deux écarts.
Avec une petite pointe, disons, encore plus catastrophique que ce que tu disais, il arrive que, quelques mois après, on apprenne par la SACD que le texte que vous avez traduit a été joué dans la traduction de quelqu'un d'autre, sans qu'on vous prévienne, parce que les droits avaient été renégociés avec l'auteur derrière votre dos. C'est le genre de choses qui arrivent aussi dans le théâtre contemporain, dans le cadre d'auteurs protégés. Tout ça pour simplement évoquer, et toujours dans cette perspective, je ne quitte pas les yeux, de se rapprocher du code des usages, de la fragilité du rôle du traducteur. Il nous est arrivé au sein de la maison entre vitesse que les traductions faites avec droit protégé par certains de nos traducteurs se retrouvent sur scène avec la signature de quelqu'un d'autre, évidemment retravaillée, voire dite retraduite, mais alors que le processus entier nous a échappé. Il y a également, dans les exigences que peuvent avoir les productions, l'élaboration de productions en France, la possibilité de sauter par-dessus le traducteur, c'est directement de l'auteur ou metteur en scène, le traducteur voit partie de son travail lui échapper. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec une traduction. Il y a autant de... Le metteur en scène est d'ailleurs lui-même aussi un traducteur, il a une certaine vision du texte qu'il lit, mais le traducteur est certainement celui dans le processus qui est le maillon qu'on peut sauter le plus facilement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on essaie de se battre aussi, non pas pour que les traductions, toutes les traductions des traducteurs soient jouées au respect de la lettre, mais pour qu'au moins un dialogue s'engage entre metteurs en scène et les traducteurs dans le processus de mise en scène et d'élaboration d'un spectacle. Peut-être Heinz peut nous raconter, ou Christina, tu voulais intervenir.
Juste une remarque.
Oui.
Il est arrivé qu'on me demande un premier jet rapide, juste pour avoir une idée de ce qu'il y a dans le texte. Mm-hmm. Ça, c'est le genre de choses à refuser absolument. On ne peut pas, avec un premier jet rapide de traduction, se rendre compte de ce qu'il y a dans le texte. Voilà. Ce n'est pas qu'une histoire racontée, ce n'est pas qu'un résumé d'histoire.
Sur ton expérience de traducteur dans les deux sens, finalement, tu traduis de l'allemand en français et du français en allemand, tu dois être une source inépuisable d'anecdotes en tout genre. Peut-être que tu peux nous faire un petit best-of pour illustrer ce propos-là.
Je crois qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir, c'est dans le sens de la fluidité de cette table rectangulaire. C'est surtout la question de la collaboration avec ce que tu appelles la maison théâtre, qui parfois est plutôt d'une auberge espagnole, dans la mesure où les metteurs en scène, parce que j'ai pu constater moi, en France en tout cas, manifestent toujours une certaine méfiance, peut-être à juste titre d'ailleurs, à l'égard des traductions. Non pas des traducteurs, mais des traductions existantes ou à venir. Mais c'est parfois une méfiance productive d'approfondissement, d'éclaircissement, pour ne pas citer encore une fois chaque cliché qui a lieu. J'ai eu le plaisir d'être associé à un de ces projets qui était une pièce de Horvat que j'ai traduite il y a fort longtemps. Et que Jacques voulait monter, et il a connu mon texte qui était publié déjà une ou deux fois, qui était joué déjà plusieurs fois, mais il lui importait d'avoir une sorte de mot à mot, mais en collaboration, c'est-à-dire on reparle une semaine ici, on s'est trouvé ici, on a regardé ensemble, il m'a demandé le sens de chaque mot du texte allemand, tout en ayant le texte français aux yeux, etc. Et ceci dans, je pense, dans le souci d'être le plus près possible du texte d'origine. Moi, je traduis de manière très très serrée. J'essaie toujours de coller au maximum au texte d'origine à partir des moyens de la langue cible, bien sûr. Ce qui permet certaines libertés là où elles sont nécessaires, certains jeux, certains souffles, certaines respirations. Et qui évolue. Et j'ai vu moi-même, en Espagne, peut-être 15 ans ou 10 ou 15 ans, qui se situait entre la première traduction de Casimir et Caroline et le moment où je me suis rencontré, où on s'est rencontré avec Jacques, sur ce projet, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, traducteur, ont changé aussi. Le texte que j'avais fait il y a 15 ans, je n'aurais plus fait tout à fait de la même façon 15 ans après. Donc ça m'a appris, ce que disait Michel tout à l'heure, un texte de traduction bouge plus qu'une traduction fixée littérairement dans un livre, qui est un texte non oral, non dit. Il faut garder toujours à l'esprit cette le constat, quand on parle de traduction, aucune traduction n'est éternelle, alors que les œuvres le sont, et les œuvres originales, les œuvres d'origine le sont. Et même, j'irai plus loin, les traductions, adaptations faites par des grands auteurs, par des artistes, des poètes magnifiques, quand elles partent d'une œuvre précédentes n'ont pas cette qualité de durée que de toute évidence gardent les œuvres d'origine. Quant aux vagues, à cette succession qui est moins rapide en France qu'en allemand, par exemple, en allemand ça bouge encore plus vite, le souffle de la langue évolue, c'est pas une question de vocabulaire, c'est une question de structure de la langue, du souffle de la langue, de la prosodie, de tout ce qui fait, tous les ingrédients qui font une langue parlée, vivante. Et en Allemagne, on a tous les 10 ans un nouveau Shakespeare, on a tous les 10 ans un nouveau Molière, etc. Et je ne parle pas de Tchekhov et je ne parle pas de je ne sais qui. Des Racines, au contraire, on en a très très peu. Parce que là, il y a quelque chose qui est très très différent dans la vie de la langue française et dans la vie de la langue allemande. Ça bouge pas du tout de la même façon. Et ça n'a pas les mêmes concepts temporaires, ça n'a pas les mêmes concepts dans l'espace, et en tout cas pas donc de la résultante de ça qui est le rythme. En revanche, pour ce qui est des livres, des traductions publiées, littéraires, d'une part, ça bouge beaucoup moins parce qu'il y a une durée de protection légale qui est respectée par l'émission et qui n'est pas du tout respectée pour le théâtre. C'est-à-dire quand nous signons un contrat avec ce qui est un passage presque obligé pour les traducteurs de l'allemand vers le français, qui s'appelle la maison L'Arche, édition L'Arche. Il y a un paragraphe dans le contrat qui stipule que le traducteur n'a strictement aucune garantie que son travail soit aussi utilisé, que l'éditeur a le droit de le transformer, de le faire faire ou refaire par un autre, et que de toute façon, si c'est quelqu'un d'autre qui doit faire une nouvelle traduction, le premier traducteur d'une œuvre n'a aucune sorte de droit sur son travail. Je peux dire non, bien sûr, je peux dire non, je ne veux pas que ce soit augmenté, mais je ne peux pas dire, il faut que ce soit mon texte qui doit être monté. Et ça, c'est assez douloureux. Quand vous travaillez pendant 15 ans, 20 ans, à la découverte d'un auteur, vous amenez, que personne d'autre n'a fait ou n'aurait fait parce que c'est difficile, parce que je ne sais pas quoi, parce que c'est long, et que ensuite vous vous trouvez dans la situation de pouvoir être dépossédé sans autre forme de procès et sans recours aucun de votre travail, de votre investissement, qui est évidemment un investissement gratuit, parce que des travaux de longue haleine, vous le faites pour la beauté de l'art, si j'ose dire, ou par la passion d'un auteur ou d'une œuvre, et en général pas pour de l'argent. Donc le seul espoir des traducteurs de théâtre, c'est d'être joué, enfin, je veux dire financièrement, alors, d'être joué, de toucher donc, des droits, participer aux droits de représentation. Quand cet espoir n'existe plus, effectivement, moi en tout cas, je me demande si je vais continuer à traduire de théâtre. Donc, je voulais aussi parler de la traduction des sous-titres, des surtitres, des voice-over qu'on a un peu laissé de côté. Une expérience récente avec la Fèvre justement de Géraud, qui a tourné, qui était coproduite d'ailleurs avec le Gros Festspiel et le Festival de Vienne. Donc, ils sont un spectacle qui est parti dans le Ruhr et à Vienne. Non pas surtitré, parce que Géraud, c'était en bifrontal, donc c'est très difficile de faire des surtitres quand on joue en bifrontal. Il voulait un voice-over, c'est-à-dire quelqu'un qui dise le texte que le public reçoit par écouteur, simultanément avec le texte qui est présenté par les comédiens. Et j'avais travaux imposés, si j'ose dire, de me servir, comme tout à l'heure on a parlé de ça, d'une traduction préexistante de Simon Verne, qui est un très beau, magnifique traducteur aussi de Racine, vers l'allemand, pas seulement. Et donc, faire à partir d'un texte préexistant, le resserrer, le travailler dans l'ellipse, travailler dans le compactage d'un texte pour qu'il soit à la fois littéralement beau, que ce sera du Racine, que ça rentre dans des cases très très serrées, et où Géraud, en écoutant au fur et à mesure, moi je n'ai pas pu le faire moi-même, j'ai d'autres obligations de accompagner la tournée, c'était une comédienne franco-autrichienne qui a fait la voix, il est intervenu, il a dit, mais là il y a trop de texte. Là, il y a trop de texte. Là, il y a un paquet de trop. Et puis, il fallait resserrer encore, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on pourrait penser, ce qui est peut-être une autre solution, c'est de travailler par synthèse. Qu'on prenne un passage, on synthétise, on raconte, on soit ce qui se passe. Ça s'est fait, d'ailleurs, sur la première diffusion de la tétralogie que Géraud a montée à Beyrouth. C'était Regnault qui avait fait le texte. C'était diffusé en synthétique, c'est-à-dire il y avait une espèce de petit commentaire, voilà, il se passe ceci ou cela, en surimpression et non pas en sous-titre. Et quand ce film, enregistrement, cette captation du spectacle de Beyrouth est passée sur Arte, donc par satellite, il n'y a pas d'incrustation possible sur satellite. Il n'y a que la bande en bas avec les sous-titres. Il fallait donc faire les titres. J'ai été à ce moment-là contacté, j'ai pu le faire, ce qui m'a fait très, très plaisir. Et là, il y avait une sorte de contrainte manifeste, c'est à certains moments, il y a l'image qui vient perturber le titre. C'est-à-dire quand vous avez Brunil qui reste couché en bas de l'image pendant 10 minutes ou 15 minutes, en général, on hésite à lui plaquer du texte sur le corps. Donc, c'est ce genre de choses qui enfin bon, on trouve parfois des solutions. Donc pour un sous-titre, c'est clair qu'on est dans le phrasé, on est dans la longueur précise de l'énoncé. C'est ça qui définit la longueur d'un sous-titre. D'une part, combien de temps j'ai pour lire, ça c'est empirique, c'est des règles qui sont établies par soit le cinéma, par la télévision. On peut lire par exemple une trentaine de signes en 2 secondes et demie. Donc vous avez une réplique qui fait 10 mots et puis un changement de plan. Donc à ce moment-là, à l'intérieur de cette réplique, vous devez transporter les contenus, donc effectivement parfois avec un mot, deux mots, parfois vous pouvez être un peu plus large. Mais enfin bon, ça, c'est toute une cuisine qu'on peut apprendre et qui est très très importante, qui enfin, me semble-t-il artistiquement très importante, mais qui aujourd'hui tombe un petit peu en désuétude vu le changement de structure du travail, enfin de l'industrialisation plutôt du sous-titrage. Donc pour revenir sur le voice-over, là vous pouvez bien sûr plus facilement garder des espaces. Vous pouvez, c'est pas une mauvaise solution je trouve, à tel ou tel moment, en accord avec le metteur en scène, enfin qui lui reste alors complètement maître de l'œuvre, ça c'est important aussi, je veux dire la loi morale sur l'œuvre, c'est le metteur en scène, et c'est pas le traducteur, et je dirais même c'est pas l'auteur, c'est le théâtre, pour définir, voilà, là j'ai besoin qu'il n'y a que les silences, qu'il n'y a que cette lente évolution d'une parole, je ne veux pas que ce soit perturbé. Bon, on peut respecter ça. Donc, je ne vais pas être trop long sur les voice-over, les sous-titrages, mais simplement, comme traducteur de théâtre, ce qui me semble primordial dans notre métier, c'est d'arriver à la publication. La seule sauvegarde, enfin à mon sens, et encore ce n'est pas vraiment vrai, mais ça aide en tout cas, c'est que les textes soient publiés. Une fois qu'ils sont publiés, le metteur en scène, les gens de théâtre, le producteur voient le texte différemment. C'est un objet, ça a une valeur vivre qui est très importante en France, plus importante peut-être qu'ailleurs. Et quand la traduction est publiée, vous risquez moins d'être dépossédé d'emblée par tel metteur en scène, tel copain du metteur en scène qui veut être associé dans un travail sans être. Parfois, il nous est arrivé d'avoir des traductions par des gens qui ne parlent pas un mot de la langue d'origine. Ça, c'est. Oui, ça, c'est. On n'a que plusieurs exemples.
De la langue d'arrivée non plus, parfois.
Michel voulait intervenir et puis je passerai à part à l'arrivée en fait.
Moi, je vais intervenir sur plusieurs points pour illustrer l'une des choses que Heinz vient de dire. Il y a un traducteur qui a la chance d'être professeur d'université, donc d'avoir un salaire et de ne pas vivre de sa traduction, parce que la chose très importante qui différencie les uns et les autres, c'est qu'il y a des gens qui essayent de vivre de leur traduction très difficilement et d'autres qui traduisent beaucoup, très bien, mais qui ont un salaire de base, qui arrivent à vivre mieux. Donc un professeur de fac, très très grand traducteur allemand, s'est battu toute sa vie pour Thomas Bernhard. Le jour où Patrice Chéreau monte dans la chambre pour Botho Strauss, Botho Strauss dit à Chéreau, « Ah, oh, ça serait bien si... » Et on s'adresse à Wienerwer, qui ne parle pas un mot d'allemand, qui fait faire un mot à mot, qui produit une traduction qui est jouée par Chéreau, donc qui a eu un premier traducteur, et puis tout à coup Wienerwer vient faire une traduction, mais la pointe de cette histoire, c'est que le premier traducteur était édité par les éditions de l'Arche, et que la traduction de Wienerwer est à son tour éditée par les éditions de l'Arche. Donc, au catalogue de l'Arche, vous avez deux versions du temps la chambre de Botho Strauss, l'une signée par Claude Porcel, l'autre signée par Michel Wienerwer. Là, on atteint le comble du problème, et c'était important que tu en parles comme ça. Dans ce que tu viens de dire, tu as parlé des problèmes de vagues de traduction. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant, je crois très intéressant. Il y a eu une très grosse rupture dans la façon dont on aborde Tchekhov. Cette rupture, c'est la part de comique de sarcasme de vaudeville chez Tchekhov. Tous les Tchekhoviens savent quelle importance avait le vaudeville pour Tchekhov dans sa vie et dans son écriture. Dans sa correspondance, c'est absolument étonnant les références qu'il a au vaudeville, qu'il fait au vaudeville. Et les Allemands ont été les premiers à essayer de faire ça, notamment un très grand poète allemand qui s'appelait Thomas Brasch, qui a publié de nombreux Tchekhov et qui a fait bouger la traduction de Tchekhov. La façon dont il l'a fait bouger a eu des répercussions en France. Anecdote sur un point tout à fait incroyable. À la fin de la Cerisette, les dernières paroles de Fils dans la Cerisette, il dit « Nie da Turka », qui veut dire « bon à rien », incapable, c'est « bon à rien ». Et Thomas Brasch a traduit de façon tout à fait bizarre, une chose très, très à part, il a traduit « poule sourde ». Taubeshuhn. Et Mathias Langhoff déteste toutes les traductions françaises existantes de Tchekhov. En 1979, et il demande à sa femme de retraduire la traduction de Tchekhov par Thomas Brasch. Le Nieda Tiopka de Tchekhov arrive en français sur la scène sous la forme de poule aveugle. Voilà un circuit tout à fait édifiant. C'était histoire de raconter une histoire comme ça. Encore une autre anecdote. Pour Mathias Langhoff, nous interrogeons sur les traductions du Prince de Hombourg, traduction romantique de Lou Bruder, de très bonne qualité, mais nettement de tendance romantique. Nous décidons de faire une autre traduction. Je m'adresse à un très grand poète qui avait signé une traduction. Adaptation peut-être, une traduction de Penthésilée, Julien Gracq. Je reçois un mot de Julien Gracq me disant « je dois vous faire un aveu ». J'ai traduit Penthésilée, j'ai fait un texte de Penthésilée en ne parlant pas d'un mot d'allemand. Cette grave erreur ne peut être excusée que si je ne la recommence plus jamais. Et vous comprendrez sans peine que votre proposition m'honore, mais j'y réponds par la négative. Je ne referai plus jamais ce coup-là. On s'est donc adressé à Henri Thomas, autre poète de grand niveau, et plus on répétait le Prince de Hombourg, plus Mathias Langhoff disait « c'est trop propre, tout ça, c'est trop poétique, faut saloper ça, allez, salope-moi ça ». Et on tailladait dans la traduction de Thomas. Donc ça, c'était de petites anecdotes. Dans ce que tu as dit...
Juste une toute petite parenthèse sur Penthésilée. Ben, c'est un vrai problème en France, qui est une pièce magnifique, vous la connaissez peut-être, de Kleist. C'est un très beau texte de Gracq, qui est complètement faux, du début à la fin. Il y a des erreurs en cascade qui traînent scène par scène, ça, en tournant en cascade comme ça. Et ça devient un peu la poule aveugle. De Thomas Brasch. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas changer. Vous repérez les erreurs. Vous savez, là, il s'est complètement trompé parce qu'il avait un mauvais mot à mot. Je reviens au mot à mot qu'effectivement, il ne faut jamais donner ni faire. Il a brodé à partir de ça. Il a fait un texte tellement fort poétiquement en français, tellement bien tenu, que vous ne pouvez pas y toucher. Et les metteurs en scène en France préfèrent, tout en sachant que c'est un texte totalement faux, monter Gracq qu'une traduction entre guillemets d'un traducteur français parce que ça a une qualité intrinsèque formidable. C'est un cas difficile.
Avant que Marie n'intervienne sur les problèmes qui la concernent, une dernière anecdote histoire de faire sourire Loaïsa. Georges Lavaudan a beaucoup évolué sur la traduction, il a beaucoup beaucoup appris en travaillant. Grâce à toi, c'est certain. Nous avons il y a de longues années produit Bâle et La Jungle des Villes. Dans La Jungle des Villes, il y avait deux couches de traduction, une couche initiale par Gilbert Badia et une couche par Jourdain Müller. Il s'est passé la chose suivante. Les comédiens se sont plongés, ont regardé un peu. Lavaudan m'avait demandé de lui faire un comparatif. J'avais repéré dans la traduction de Jourdain Müller deux, trois contresens gigantesques que Badia, très fin connaisseur de l'allemand, avait édité. J'avais donc signalé ça. Pour finir,
on n'a absolument pas fait tout ce travail. Et sur la scène, nous avons eu cette chose rarissime. Toute la compagnie jouait la traduction de Jourdeuil Müller, sauf Philippe Morier-Genoux, qui a toujours peur de ses problèmes de mémoire, qui avait appris par cœur la traduction de Badia très tôt pendant l'été, et qui a joué la traduction de Badia pour son propre rôle.
Et qui sont l'opéra ? On chante différentes langues en même temps. Je me rappelle, les opéras, vous chantez en italien et en français et en allemand, alors que dans l'opéra, il n'y a qu'une langue. À Toulouse, j'en ai eu une fois comme ça.
Pour en revenir aux questions de traduction et de surtitrage, alors à la Maison d'Antoine Vitesse, notre rôle est davantage tourné vers l'importation de textes étrangers à partir du travail d'exploration et de découverte des traducteurs. Mais Marie, toi qui es en charge, disons, de la promotion du théâtre français à l'étranger, dans le cadre de tes activités à l'AFA, tu es en quelque sorte confronté à la problématique inverse, c'est-à-dire que tu envoies des textes français et quels sont les moyens dont tu disposes pour trouver les traducteurs, créer des équipes de traducteurs, garantir la validité des traductions des textes français dans les pays d'arrivée, que ce soit en termes de traduction ou en termes de surtitrage. Et dans quel cadre, puisque en ce moment il a lieu une opération de cet ordre-là, d'envergure.
Alors, donc je parlerai particulièrement de Tintas Frescas, qui est encre fraîche en Amérique latine, Olivier Poivre d'Arvor, directeur de l'AFA, AFA ministère des Affaires étrangères, avait demandé au département théâtre de préparer, en fait. Donc, cette saison de théâtre français en Amérique latine se déroule de 2002 à 2004, faisant la promotion des écritures contemporaines françaises. Donc, c'était un programme assez pointu, parce qu'il y avait, je dirais, que le théâtre contemporain, même s'il se porte de mieux en mieux en France, quand même, on écoute sur les plateaux de théâtre, mais il a fallu du temps. Vous imaginez qu'à l'international, personne ne demandait ou Olivier Py, ou Duringer, ou Katrina, voire Novarina. Donc ce travail a été fait avec le réseau culturel français à l'étranger, c'est-à-dire tous les services culturels des ambassades de France, et qui est notre premier allié naturel. Et les services culturels étaient en lien avec les directeurs de festivals ou directeurs de théâtre ou directeurs de biennale sur place dans ces 19 pays, puisqu'il s'agissait d'établir cette saison de théâtre français dans 3 ans, traversant 19 pays, de Santiago du Chili au Mexique via le Brésil, c'est-à-dire de langue natale espagnole et le portugais du Brésil. Donc 20 pays, 42 auteurs ont été actuellement traduits, c'est-à-dire traduits d'abord évidemment, lus, joués, entendus dans notre programme Un acteur, un auteur, des ateliers d'écriture, enfin par toute la politique générale du théâtre à l'AFA qui s'exerce pleinement dans ce programme Tintas Frescas. Donc il s'agit évidemment de diffusion des spectacles, et c'est là où on va arriver très vite au surtitrage. Il y a eu également 32, il y aura à fin 2004, 32 créations d'auteurs contemporains français, c'est-à-dire qu'un metteur en scène français se rend dans un pays et travaille avec des acteurs colombiens, uruguayens, brésiliens, chiliens, etc., etc., font la création d'un texte qu'ils ont choisi avec les acteurs, des acteurs professionnels ou des élèves de conservatoires d'art dramatique. Il y a eu des semaines de dramaturgie qui ont été assez nombreuses, puisqu'il y en a eu 12 réalisées à ce jour. 11 ateliers d'écriture et de traduction, c'est-à-dire des auteurs qui se sont rendus, pas seulement des auteurs d'ailleurs, des auteurs et traducteurs se sont rendus dans différents pays d'Amérique latine et ont participé à un séminaire de traduction et fait aussi des traductions comparatives, notamment Bah, peut-être Christina pourra parler de son expérience à Cuba, si le moment le veut, ou Fernando également. Moi, je vais juste rappeler la traduction, enfin l'atelier de traduction qui a été réalisé par René Solis, qui est traducteur en Espagne, en langue espagnole et aussi journaliste. Et il a fait une lecture comparée des cinq traductions de Roberto Zucco. Cinq traductions langue espagnole, mais mexicaine, mais colombienne, vénézuélienne et uruguayenne, je crois. Donc il avait demandé, avant de se rendre à Bogota, qu'on recherche toutes les traductions qui avaient été réalisées jusque-là dans le voie de Voltaire, mais particulièrement Roberto Zucco. Et avec des universitaires colombiens, avec des metteurs en scène, il s'est donc livré à une recherche et une comparaison face à des étudiants. Donc je crois que ça s'était extrêmement bien passé. Voilà, donc je vais arriver. Et puis ce programme a donné lieu quand même à 13 éditions et publications des auteurs tels que Miñana, en particulier Armando Llama, Sergio Valetti, Fabrice Melchior, et un événement mineur d'un point de vue audience de spectateurs, mais majeur pour ce qui concerne la traduction. Michel Didim, qui est metteur en scène et directeur de Pont-à-Mousson, du festival à Pont-à-Mousson, a demandé à 20 auteurs d'écrire un texte qui aurait pour thème une sorte de confession pour le divan, un divan de psychanalyse. Donc ça mettait en jeu un spectateur et un acteur avec 20 divans sur le plateau, et chaque acteur donc disait 20 fois son texte face à 20 spectateurs, enfin de manière confidentielle quasiment, mais ce qui était très intéressant. Moi j'ai vu la création, pardon, au Mexique et au festival de Guanajuato en particulier. 10 auteurs mexicains avaient été sollicités et 10 auteurs français, donc les traductions avaient été réalisées pour cette création. Ça, c'est une... et qui donneront lieu après aussi à la découverte d'auteurs mexicains, argentins, colombiens, et vont s'en emparer des metteurs en scène français qui sont allés sur place. Voilà, cet événement prendra fin à Buenos Aires du 19 au 28 novembre prochain, et qui sera comme un florilège en fait des actions qui ont été menées pendant 3 ans. Alors, concernant le surtitrage, je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire ici, mais je vais en parler pour ce qui concerne l'AFA. Il y a 4 ans, nous avons décidé de manière accrue de surtitrer les spectacles en diffusion, qui partaient en diffusion, de manière à élargir les cercles d'audience et qu'il n'y ait plus que des Français. De toute façon, on sait qu'il y a une perte de la langue assez considérable dans tous les pays du monde, voire au profit de l'anglais, quelquefois de l'espagnol, et que nous sommes attachés en fait à faire entendre la langue théâtrale en français. Donc il fallait faire appel à surtitrage, et nous avons demandé à Mike Sans, qui est auteur, traducteur, mais surtout qui travaille avec un nombre de traducteurs assez importants concernant chacun des pays du monde, sauf pour l'Allemagne, puisque là nous avons un bureau du théâtre en Allemagne, et Mike Sans ne se charge pas de ce programme. Alors il apparaît seul, mais en même temps il travaille avec une vingtaine de traducteurs, et chaque spectacle qui part en diffusion est répété avec l'auteur. Alors ça, pour être précise, que reste-t-il du texte traduit voire édité? Mike Sans voit l'auteur ou le metteur en scène, et effectivement rarement le traducteur, comme le disait Daniel tout à l'heure pour rappeler l'Oresti à Barcelone. Mais c'est le metteur en scène là qui décide de la compression en fait, parce qu'au départ il travaille sur un texte intégral bien entendu, ensuite il s'agira de faire la compression pour qu'il y ait la lecture que les spectateurs ne soient pas effectivement scotchés à la lecture du surtitrage, et il faut dans ce cas que procéder par ellipse en fait là. Mais seul peut en décider le metteur en scène, voire l'auteur, bien sûr. Donc c'est avec lui que le travail se fait, avec eux que le travail se fait, et d'assister surtout aux répétitions pour voir tout le mouvement de la rythmique du spectacle, bien entendu. Hein, ça ne peut pas être décidé comme ça, de manière arbitraire, et de lancer les surtitrages au moment où ils arrivent dans un des pays du monde. Alors... nous avons des retours de la part des artistes en tout cas, et puis des attachés culturels en poste à l'étranger, de bons, sans se donner de satisfecit, en tout cas plutôt de bonnes relations face au surtitrage, sachant qu'il a, et ça nous en avons des témoignages, des témoignages de chiffres, je dirais, assez précis, environ 30% d'augmentation de public depuis que le surtitrage a été développé. Donc c'est assez important de savoir que dès qu'un spectacle est annoncé, surtitré en langue, il fait augmenter le nombre de spectateurs. Peut-être que j'arrête là pour l'instant, puis on reprend.
Plus spécifiquement maintenant des problèmes posés juridiques, artistiques, posés par la pratique du surtitrage, notamment en Europe. Et ça, Michel,
je voulais intervenir un petit moment sur le problème du surtitrage, peut-être de façon un peu trop pédagogique, mais je pense qu'il faut clarifier les choses. D'abord, une remarque qui m'est venue en entendant Heinz. Heinz, tu viens de nous parler d'un retour aux écouteurs et à la voix. Ce que tu as dit m'intéresse énormément. La technologie actuelle peut permettre une écoute totalement discrète, extrêmement précise, de très haute qualité, et donc pallier toutes les catastrophes d'autrefois avec les écouteurs, avec les Allemands appelaient ça des verres, un verre d'oreille qu'on se met dans l'oreille, Ohrwürmer. C'était des choses horribles. Peut-être l'expérience que tu as faite là est une chose tout à fait importante. Les pays de l'Est n'aiment pas les surtitres. Dans l'ensemble, on vous dira là-bas, nous n'avons pas la traduction des surtitres. Nous avons la tradition du doublage avec les écouteurs. Donc ça, c'était une remarque préalable que je voulais faire. Je t'ai écouté avec beaucoup d'intérêt là-dessus. Sur les surtitres, à l'heure actuelle, il y a un premier problème qui est un problème de matériel. À l'heure actuelle, l'appareillage de surtitrage est remarquablement mis au point. Il y a deux problèmes dans l'appareillage de surtitrage. Il y a le projecteur et il y a le logiciel. À l'heure actuelle, il existe des projecteurs surpuissants de tout petits modules qui représentent une valisette de voyage. Donc là, on n'est plus avec des barcos pesant 25 kg. On a des objets où l'ordinateur et le projecteur ont la taille d'une petite valise à roulettes. Donc là, on a beaucoup avancé. Deuxièmement, le problème des logiciels. Il existe plusieurs séries de logiciels permettant de surtitrer. La plupart sont sous Word. Et ces logiciels se différencient par certaines capacités. Là, je dois faire un point historique. Fèvre Darcier a été un pionnier dans ses études. Il a demandé aux collaborateurs du Festival d'Avignon de développer ces choses, et c'est Avignon qui a été sans doute le premier lieu où
le logiciel de surtitrage a été poussé et amélioré en continuité. C'est une pratique qu'il maîtrise maintenant très bien. L'un des collaborateurs du festival, devenu autonome maintenant, a un logiciel que je préfère parmi tous les autres pour deux raisons. Parce que l'informaticien en question est toujours disponible, parce que si vous lui lancez une idée, dans la nuit, il la transforme en programme informatique. C'est un véritable informaticien, c'est pas un bricolo, c'est un informaticien. Et parce que, et c'est le point sur lequel qui me semble central, son logiciel permet de faire apparaître sur l'écran de l'ordinateur trois champs simultanément. Le champ de la langue source, le champ de la langue d'arrivée et le champ du titre suivant. L'extrême avantage de ce triple champ, c'est que la personne qui va conduire le surtitrage, il y a deux problèmes, il y a celui qui établit le surtitrage et il y a celui qui conduit le surtitrage. Quand les deux sont la même personne, c'est encore mieux, mais on peut scinder ces choses-là. La personne qui va conduire le surtitrage peut être un membre de la compagnie théâtrale, un assistant de mise en scène par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le spectacle par cœur et qui n'aura aucun problème pour lancer les titres. Donc la conduite du surtitrage, c'est formidable si c'est quelqu'un, ça ne marche bien que si c'est quelqu'un qui connaît par cœur le spectacle. Lorsqu'on accueille un spectacle, on ne peut pas se permettre, et c'est trop souvent le cas, d'avoir quelqu'un qui va être au pupitre et qui va lancer les surtitres, qui n'aura vu le spectacle qu'une fois, qui n'aura pas vu une répétition intégrale, mais qui aura vu des raccords de mise en place. Il est indispensable que lorsque un théâtre décide d'accueillir un spectacle étranger, il ait un collaborateur qui aille sur place, qui voit plusieurs représentations et qui s'entraîne à lancer les tops correctement. Ça, c'est un point absolument central. Donc, le logiciel Torticoli, qui est celui que j'utilise d'habitude, me semble supérieur aux autres parce qu'il permet d'être utilisé par un membre de la compagnie. Vous avez une compagnie lituanienne qui vient, ça peut être un assistant qui ne parle pas un mot de français, mais qui connaît par cœur son spectacle et qui a le texte lituanien sous les yeux et qui lance les titres d'après le spectacle. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait un choix, je reste fixé là-dessus, je l'utilise extrêmement souvent, et à la fois pour la conduite, à la fois pour établir les titres. J'en viens au point central, le problème du surtitrage n'est plus un problème de matériel ni de logiciel. Ces choses-là sont aujourd'hui totalement résolues. Et le point central du surtitrage, c'est l'établissement des surtitres. Et dans les expériences d'ensemble que j'ai pu faire, il y a une façon de prendre ce problème par-dessous la jambe et avec une légèreté inconsidérée par toutes les institutions, tous les organismes, tous les théâtres. Établir un surtitrage est un travail long qui demande énormément de conscience, énormément de savoir. Il faut investir de l'argent. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse faire un surtitrage à moins de 20 000 francs aujourd'hui. Je pense que c'est impossible. Il faut au moins 3 semaines de travail, voire plus. Absolument indispensable. Et j'ai fait sur la VAR la même expérience. On arrive à Barcelone avec la VAR. On me dit la surtitreuse est chanteuse d'opéra. Et nous commençons à faire les premiers filages. La jeune femme gagnait sa vie en faisant des surtitres d'opéra. Elle était chanteuse, mais avec des engagements trop peu nombreux pour vivre. Et elle avait fait un surtitrage admirable. Les tempi absolument formidables. Et la seule chose que j'ai eu à faire avec elle pendant les 3 jours de répétition, ça a été de voir comment, en partant sur des formes moliéresques, si le catalan ne permettait pas de taper extrêmement juste sur les tournures moliéresques, traduire peu à peu, par à poc, avec des sonorités qui tombaient impeccablement, c'était un véritable régal. Là, j'ai eu l'inverse comme expérience d'une surtitreuse parlant parfaitement les deux langues
ayant un sens littéraire et ayant un sens musical, c'est-à-dire les telpies dont tu as tellement parlé, parce que c'est absolument central. Donc là, j'insiste, pour nous, il me semble indispensable que ce soit les traducteurs qui fassent cela. Je vais prendre un autre exemple. J'ai vu à l'Odéon, dans votre maison, un spectacle de Bob Wilson, traduit de l'allemand, surtitré en français, où le niveau de langue choisi par le surtitreur était de 10 pieds en dessous du niveau de la langue d'origine. Nous avions un texte argotique, vulgaire, familier, qui se voulait du ruisseau, alors qu'il y avait une poésie post-romantique dans le texte allemand. Pardon ? Non, un autre. C'était Bruxelles ? C'était une catastrophe. Je me souviens que j'avais été en rage avec les photographes absolument partout. Je crois, et c'est le fond de ce que j'avais à dire aujourd'hui, je crois que surtitrer, c'est un véritable travail et que l'investissement central doit être mis dans le travail du surtitreur, en sachant que les autres problèmes aujourd'hui, les problèmes de la technique et de la projection, sont résolus.
Je voudrais faire une précision, puisque Michel aborde la question financière, que à la fin, nous consacrons 180 000 euros par an pour le programme de surtitrage, 120 000 de l'AFA et 60 000 pour un soutien spécifique provenant du ministère des Affaires étrangères, notamment la direction du français. Voilà, donc c'est une somme très, très importante.
Pour quel volume à peu près
de... Pour un volume de 12 à 15 traductions, diffusion, tout le développement en fait, pour à peu près 15 titres par an.
Bien, je retourne donc je crois que le mot qu'il faut utiliser qui vient comme ça se greffer sur l'intervention de Michel Bataillon, c'est l'aspect artistique. Et quand on voit des surtitrages et quand on voit les sous-titres aujourd'hui qui sont faits dans des officines comparables parce que compression de budget, parce que le DVD est passé là-dessus et a ruiné la profession de sous-titreur, dans la mesure où il le paye aujourd'hui, je crois, 3 francs à peu près, je crois que ça fait un demi-euro par titre, alors qu'il y a 10 ans, pour le sous-titrage, pour Arte par exemple, on était à 3 euros le titre. Vous voyez la chute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, professionnellement, on ne peut plus faire du sous-titrage, même pour des chaînes publiques de télévision. On continue bien sûr de le faire pour le cinéma, où les tarifs sont restés à peu près stables, mais tout ce qui est audiovisuel a été laminé par les boîtes de DVD qui ont fait ça au kilomètre. Et en ce qui concerne Arte, c'est aujourd'hui concentré sur une ou deux maisons qui sont installées à Strasbourg, puisque évidemment le siège d'Arte, c'est plus facile pour gérer ça comme ça. Mais à l'intérieur de cette boîte, qui s'appelle Boulevard de Production, c'est du sous-titrage au mètre, au kilomètre, vous voudrez. Et pour l'Allemand, c'est pareil, à l'autre côté du Rhin, où c'est une officine comparable. Traduit à l'allemand. Et quand vous regardez, d'une part, on sous-titre beaucoup moins, parce que ça fatigue les gens, parce que le rêve du premier gouvernement Mitterrand qui a mis en place cette option sous-titrage de tout ce qui est film de fiction, film de valeur, documentaire, etc., petit à petit a été plus ou moins abandonné parce que le public résiste au sous-titrage. Autant je comprends les réticences de metteurs en scène, de réalisateurs, ça m'est arrivé de voir, quand vous faites du sous-titrage, vous faites toujours ce qu'on appelle une simulation, une séance de simulation où souvent le metteur en scène est là, ou le responsable de la production, et qui va regarder avec vous le résultat de votre travail, qui est donc, qu'on peut encore modifier, qui est incrusté, mais électroniquement uniquement, qui n'est pas sur les copies. Une fois que c'est sur le copie, vous ne pouvez plus rien bouger. Et là, il arrive effectivement que des réalisateurs disent « Mais là, je ne veux pas qu'on couvre trop mon image. » Il y a des metteurs en scène de théâtre qui disent ça pour le surtitrage.
Je ne veux pas que le public soit tout le temps les yeux levés sur les côtés, là où il se trouve le surtitrage, je veux qu'ils voient le spectacle et qu'ils réduisent au maximum le surtitrage. Bon, le surtitrage, c'est moins évident, mais ça existe aussi. Mais dans les deux cas, l'essentiel, c'est, enfin, à mon sens, c'est comme Michel vient de l'expliquer très, très justement, c'est que la langue, enfin, le niveau de langue, la poétique de cette langue soit respectée, et c'est possible dans le surtitrage et dans le sous-titrage, malgré la compression. C'est possible, on peut retrouver la poétique particulière d'un auteur, même si c'est pas la même langue de l'euro, pardon, même si c'est pas construit de la même façon, on peut arriver à respecter la langue et la couleur et le rythme de la poésie d'origine. Simplement, ça, comme dit Miguel, c'est du boulot, et ce boulot-là, à 0,50 euros le titre, on ne peut pas le faire, d'autant que c'est toujours très très pressé, c'est-à-dire vous ne pouvez rien faire d'autre. Hein, c'est un film, ça se fait entre 3 jours et 5 jours, les sélections se font tard, c'est toujours pour l'avant-veille qu'il faut l'avoir fini, donc c'est des situations de stress qui sont difficiles à gérer et encore plus difficiles si à la sortie vous n'arrivez pas à être rémunéré correctement.
Je peux dire juste un petit mot, oui. tout petit. C'est sur le surtitrage, justement, le sous-titrage du théâtre. Alors, pour revenir au théâtre, c'est simplement une impression de spectatrice, puisque moi, je n'ai jamais pratiqué le surtitrage. Je trouve que, quand même, c'est un instrument extraordinaire de mise à disposition des mises en scène. Souvent, ce sont des pièces qui circulent en Europe, des mises en scène étrangères, et de voir le travail des acteurs étrangers, justement, qui viennent vers nous et qui, grâce au surtitrage et au sous-titrage, nous permettent d'avoir cet accès direct aux pièces de théâtre. Ce qui me semblerait, moi, presque suffisant, ce serait un surtitrage très, très réduit, presque d'indication, dans la mesure où, quelquefois, ou le plus souvent pour les grandes pièces, on aurait à disposition le texte en traduction. Ce qui paraîtrait d'être un idéal, d'avoir avant ou après le texte en traduction, un accès direct à la pièce, plus un surtitrage qui serait une indication perpétuelle, et de profiter aussi, ce qui m'a étonné, c'est cette histoire de voice, qui empêche d'entendre la musique, justement, ce qu'on va chercher quand on va au théâtre, voir une pièce étrangère, dans une mise en scène étrangère par des acteurs, on a la chance. On met que nous, oui, donc on a une espèce de... Mais enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est avoir la langue, le théâtre, enfin, le théâtre. Donc, trouver des moyens les plus complets possibles pour avoir accès au texte dans son intégralité, et peut-être des indications qui permettent de suivre vraiment et d'entrer dans un spectacle.
À mon tour, juste un tout petit mot. Si j'avais su que le débat porterait à ce point sur le surtitrage, j'aurais apporté quelques lettres choisies de spectateurs qu'on reçoit toujours à l'Odéon après un spectacle en langue étrangère surtitré. Il y a deux piles, en gros. La pile à répondre pour les gens qui estiment que le surtitrage était envahissant, beaucoup trop lourd, qu'ils ne pouvaient pas mettre le spectacle, et la pile de ceux qui estiment que vraiment c'était maigre, pauvre, qu'on n'y comprenait rien, et que l'information ne se faisait pas. C'est pour ça que je disais, entre autres, que je vois les failles, mais je ne vois pas les solutions. Jamais, sur aucun spectacle, on a réussi à mettre tout le monde d'accord. Sauf, effectivement, sur certaines catastrophes, bien entendu.
Non, mais il y a une piste qui vient d'être évoquée, qui est, effectivement, on peut rêver d'un monde idéal où chaque spectateur, en entrant dans la salle, recevrait le texte, ou bien avant, oui, ça prendrait sa place, 8 jours à l'avance, recevrait le texte, aurait le temps de le lire, et...
Je peux vous faire une suggestion? Ça permettrait d'ouvrir un petit peu le débat à la salle, parce que là, depuis...
Oui, on a encore une intervention, et ensuite, on voulait discuter avec vous.
Ma parenthèse est tout à fait à propos, là, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, donc je vais me lancer. Je dirige à Aix-en-Provence une structure qui s'appelle la Maison d'Espagne, qui est un centre culturel, et nos moyens sont importants, mais modestes à la fois par rapport à ce qui existe dans les instituts Cervantes. Et donc nous avons un peu, en quelque sorte, éclipsé ce problème de la traduction depuis le mois de septembre, où nous avons démarré une expérience originale qui s'appelle du théâtre bilingue. Pourquoi ? parce que nous nous adressons à des gens qui sont bilingues, donc qui souvent comprennent à la fois le français et l'espagnol. Et donc nous sommes partis aussi de l'expérience que nous vivons au quotidien, qui est de parler tantôt en français, tantôt en espagnol. Je me demandais dans quelle langue j'allais m'exprimer là d'ailleurs. J'ai failli vous le jouer aussi en bilingue, mais je n'ose pas, parce que je suis à Toulouse pour la première fois. Et donc c'est extraordinaire cette expérience, parce que c'est un atelier donc, qui est mené par une association qui s'appelle Texte et Projet en partenariat donc, avec la Maison d'Espagne. Et en fait, nous organisons toutes les semaines déjà sur la base d'un travail qui est mené par une actrice madrilène qui s'appelle Cristina Silva, des ateliers de théâtre en espagnol et en français, puisque les élèves qui viennent là sont bilingues. Donc ça, c'est un travail hebdomadaire. Et puis chaque mois et demi, chaque six semaines, nous organisons une lecture sur la base de textes, parce que c'est le faible du directeur du projet qui s'appelle Jean-Claude Nieto, sur la base de textes d'enseignement américain en général, des lectures en bilingue. C'est-à-dire que nous passons de façon, pas spontanée puisque les textes sont préparés, mais nous passons du français à l'espagnol naturellement. Et pour le spectateur, parce que c'est quand même lui qui est important dans cette démarche, on a beaucoup parlé des traducteurs et du metteur en scène, mais c'est aussi le public qui est là, qui est important. Pour lui, il se trouve plongé dans un univers qui n'est ni français ni espagnol et qui est une langue nouvelle qui correspond à ce qu'il éprouve aussi parce qu'il est bilingue et qu'il vit intérieurement à la fois en français et en espagnol. Donc bon, c'est peut-être un peu hors sujet mon intervention, mais en même temps, c'est peut-être aussi une ouverture qui va vous permettre de retourner vers la racine de la difficulté et de cette idée que monsieur évoquait tout à l'heure de se trouver un peu à la croisée des chemins. Pourquoi à la croisée des chemins? Parce qu'à un moment donné, on n'est plus... le traducteur a des problèmes, l'interprète a des problèmes. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un ressenti de l'autre côté qui ne correspond peut-être à rien de tout ce qui existe en l'état actuel et que la situation peut être figée et qu'elle demande à évoluer. Voilà, c'est un témoignage sur une atmosphère nouvelle qui est franco-espagnole et qui correspond à ce que nous vivons tous au quotidien aussi. Parce qu'à la Maison d'Espagne, tous les jours, on a des visites et on parle en français, en espagnol, parce qu'on éprouve certaines choses en français, d'autres en espagnol. Voilà.
Votre intervention est tout à fait judicieuse dans le cas de langues parlées majoritairement. Qu'est-ce que vous faites quand vous invitez un spectacle lituanien?
Je suis à l'Institut Cervantes.
Oui, oui.
Je me pose la question en tant que franco-espagnol ou hispano-française. Et je me dis, finalement, quand on éprouve le besoin de traduire un texte, c'est pourquoi? C'est parce qu'on s'adresse à un public qui parle une autre langue. Par exemple, lorsque madame parle de cette démarche de traduire en espagnol des textes français pour les apporter en Amérique latine, en fait, on s'adresse à quel public là-bas? Un public qui parle soit français, soit espagnol. Majoritairement. Pas un public qui va parler espagnol.
Majoritairement espagnol.
Donc, cette idée de s'adresser à lui dans une. Mais qui s'intéresse à la culture française, donc qui vraisemblablement a des bases en français. Je voulais simplement vous en parler parce que c'est quelque chose de très magique. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus dans quelle langue on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vous interrompt et on vous demande l'acteur à ce moment-là parler français ou espagnol, vous ne le savez plus. Vous ne le savez plus parce que vous êtes plongé dans un univers nouveau qui est franco-espagnol, hispano-français, et qui finalement sublime les deux langues et crée une harmonie qui est vécue de façon merveilleuse de part et d'autre. Voilà. Merci.
Avant de continuer la conversation avec la salle, vous voyez que, effectivement, on a parlé pendant pas mal de temps et évoqué un certain nombre de problèmes liés affectant le statut du traducteur dans le théâtre, que ce soit des problèmes de captation, que ce soit des problèmes de reconnaissance des droits. Enfin, nous, notre position depuis plus de 10 ans maintenant d'importateurs et de traducteurs de théâtre de 26 langues différentes, comme je disais, donc de l'islandais au vietnamien, pour les faire connaître à un public français, nous ont amené à être confrontés à un certain nombre de problèmes qui nous ont, en réaction, amené à établir un code des usages qu'on aimerait faire diffuser, voire diffuser, discuter, accepter dans l'idéal par l'ensemble des structures théâtrales et dont Cécile Hermon va vous dire quelques mots avant que nous entamions la discussion plus largement avec vous.
Moins drôle, puisque Dorothée a plusieurs exemplaires du code des usages pour la traduction d'une œuvre théâtrale telle qu'il est rédigé dans cette version. Donc, à l'occasion des 10 ans de la maison en fin de vitesse, en fait, en 2001, la maison en fin de vitesse, notamment en raison de tous les dysfonctionnements qu'on a pu noter ce matin, notamment la traduction du texte par des auteurs de renom ou par les metteurs en scène eux-mêmes, a décidé de rédiger un code des usages pour la traduction des œuvres théâtrales, sachant qu'il y avait déjà un code des usages pour la traduction d'une œuvre de la littérature générale qui existait depuis 1984 et que ce texte d'ailleurs avait été modifié en 1993. Donc on avait beaucoup de retard dans le domaine. Donc ces dysfonctionnements sont dus principalement au fait que dans le domaine théâtral il y a une pluralité d'auteurs, donc l'auteur de la pièce, le traducteur, le metteur en scène, parfois les costumiers ou les créateurs de lumière peuvent revendiquer aussi d'être auteurs. Donc cette chaîne d'auteurs successifs fait que le traducteur a aussi beaucoup de mal à trouver sa place. Par ailleurs, en fait, c'est vrai que la circulation des spectacles pose des problèmes nouveaux. Le surtitrage pose la question des questions de rémunération, des questions de droit. On peut se demander notamment s'il faut forcément qu'il y ait une traduction préexistante au surtitrage, si ça doit être le traducteur de la traduction qui fasse le surtitrage. On peut se poser la question de savoir quelle doit être sa rémunération, si il doit être rémunéré en tant qu'auteur, comme le disait Michel, pour le travail préalable au surtitrage et puis après au forfait par exemple pour le temps qu'il va pouvoir passer au pupitre, soit directement en régie, soit avec un régisseur. Donc voilà, toutes ces questions se posent, sachant que pour le surtitrage, comme c'est une question pas si nouvelle que ça, mais en même temps assez délicate, et je crois que Daniel en a bien parlé, il nous a semblé important de ne pas figer cette question-là dans le code des usages par la traduction d'une œuvre théâtrale, pour laisser aussi une certaine liberté aux metteurs en scène. Donc dans ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, Centre national du théâtre, on a fait une étude sur la place des auteurs vivants dans les scènes publiques. On a vu que plus de 50% des auteurs joués, en tout cas dans les théâtres nationaux, sans drames nationaux, scènes nationales, théâtres nationaux, étaient des auteurs vivants. Et 20% de ces auteurs, des 50 auteurs les plus représentés, sont des auteurs étrangers. Donc la question de la rédaction d'un code des usages, soumis à signature des partenaires que peuvent être le syndicat national de l'édition, le syndiac, la maison en fin de vitesse, d'autres partenaires se posent. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en fait, il ne se présente pas du tout de la même façon que le code des usages pour l'œuvre de la littérature générale. On a décidé en fait implicitement de montrer que le but ultime de la traduction d'une œuvre théâtrale, c'est bien sa représentation, mais pas sa reproduction, puisque en fait il y a une double exploitation par rapport à l'œuvre de la littérature générale, et donc de montrer que le traducteur avait des liens avec l'entrepreneur du spectacle et avec l'éditeur, même si il arrive parfois, même assez souvent, que l'éditeur soit préagent et aussi des droits de représentation. Ce qui complique l'affaire et ce qui est aussi très défavorable, très souvent, aux traducteurs. Donc voilà, sachant que ce que je voulais aussi dire, c'est qu'à la maison en fin de vitesse, il y a, même si c'est la représentation qui compte le plus dans notre domaine, il n'y a que 15% des auteurs traduits, enfin des œuvres traduites qui sont montées et 45% par contre sont édités. Donc on voit que beaucoup de textes traduits ne sont pas portés à la scène, ce qui ne permet pas aux traducteurs aussi de faire ce travail intéressant dont tu parlais, Daniel, et de vous mettre le travail de l'écriture du traducteur à l'épreuve du plateau. Donc dans sa dernière version, le code des usages en préambule définit un statut pour le traducteur du théâtre, rappelant qu'il est l'auteur d'une œuvre dérivée, qu'il a un droit moral et un droit au respect de son nom, notamment pour dans notre secteur, ça va se traduire par le fait que son nom doit figurer dans les programmes de saison, dans la Bible, dans les livres qui sont distribués, enfin dans tous les documents de communication. Voilà, et donc dans ce qui est aussi conforme à la loi de 57 sur les droits d'auteur et à la norme AFNOR applicable dans le secteur. On a aussi donc rédigé une section 2 disant que il fallait que le traducteur ait les droits d'auteur de l'œuvre initiale, donc c'est bien en droit, d'ailleurs que cette œuvre n'est pas tombée dans le domaine public. Et puis on a aussi pointé le rôle des découvreurs et de passeurs dont on a un peu parlé ce matin, et qui n'est pas un phénomène propre au domaine théâtral, puisque en fait, je disais d'ailleurs dans le dernier numéro de Translittérature qui vient de sortir, qu'il y avait un grand débat dans le domaine de la littérature générale pour savoir si on devait rédiger des contrats d'apporteurs. En fait, dans le cas où un traducteur n'a finalement pas la priorité pour la traduction, mais où il apporte une œuvre et en fait devient un peu plus qu'un traducteur, un agent. Donc il y avait ce débat-là qui était assez intéressant, qui s'applique aussi dans notre cas. Et donc, outre ce contrat d'apporteur que nous, on n'a pas non plus décidé de traiter dans le code de l'usage, on a aussi rappelé qu'il fallait nécessairement, le plus souvent, conclure en fait plusieurs contrats et ne pas avoir qu'un seul contrat avec les différents interlocuteurs. Et ce code des usages qui donne des droits aux traducteurs est aussi un code des usages qui a été rédigé pour dire que le traducteur devait aussi travailler avec le metteur en scène et qu'il devait aussi être à son écoute et puis profiter du travail qui est fait sur le plateau pour apporter des corrections à sa traduction, enfin des corrections des retouches, même si cette traduction est déjà éditée. Voilà. Je crois que globalement, de toute façon, les textes sont disponibles. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire.
Merci. Alors, il nous reste 20 grosses minutes pour répondre à vos questions, discuter. Oui, il y a un micro qui circule, peut-être que c'est bien de parler dans le micro pour...
On peut appuyer ou...
Non, ça marche.
Bon, je voulais d'abord vous féliciter de cette table ronde qui était tellement riche en aspects et en informations qui est difficilement à épuiser, bien sûr, dans ce cadre. Mais un sujet donnerait un sujet pour un colloque entier, je trouve, le sujet des sous-titres, par exemple, et beaucoup d'autres choses. Je voulais seulement, tout brièvement, saisir l'occasion de lancer peut-être une information, enfin un détail qui n'est peut-être pas connu par tout le monde et qui rentre quand même un peu dans ce sujet aussi. Tout le monde n'est peut-être pas au courant qu'à l'Université de Düsseldorf, il y a une filière d'études spéciales traduction littéraire depuis plus de 10 ans. Dans ce cadre, la traduction théâtrale trouve aussi sa place, bien entendu, bien que subordonnée. Il s'agit là de la traduction français, de l'italien, de l'espagnol, enfin des langues romanes et de l'anglais vers l'Allemagne. Et ceci est loin de rester une chose académique, ça rentre bien aussi dans le cadre des efforts entrepris par la maison Antoine Vitesse. Au début de cette filière, il y avait beaucoup de méfiance vis-à-vis du monde de l'édition, etc. je crois qu'au bout de 10 ans, plus de 10 ans déjà, il y avait quand même, on pouvait gagner un certain renommé aussi. Il y avait pas mal d'étudiants qui ont pu publier des traductions. On vient d'éditer une petite brochure qui rassemble les traductions faites et réalisées par ceux qui ont terminé ce cursus et par les étudiants aussi. Alors, c'est vraiment une chose pratique aussi, et comme on pense peut-être que c'est une chose académique, seulement à l'université, il faut peut-être préciser qu'on collabore très étroitement avec des mondes, avec des gens, avec des traducteurs même, ici présents même, avec Frank Schwarzinger par exemple, on l'avait invité pour un stage pratique, comme avec d'autres gens. L'année dernière, on a fait une rencontre à Nantes avec Roland Fichet et le traducteur Klaus Gronau au sujet de la traduction de l'oralité, etc. Et tout ceci s'enchaîne aussi avec les activités du Collège des traducteurs à Strahlen, que vous connaissez certainement, qui était sinon l'inspiration, quand même l'arrière-fond de la fondation de la maison Antoine Vitesse aussi. Et au début de notre filière, il y avait le bien connu Elmar Topphoffen, le fameux traducteur de Beckett, qui a collaboré avec nous dans l'établissement de cette filière d'études et qui était même chargé de cours encore au début de ses études. Alors, ceci pour l'information qui n'est peut-être pas partagée par tout le monde et connue par tout le monde. S'il y a besoin d'informations supplémentaires, c'est facilement à trouver sur le site internet de l'Université du Düsseldorf.
Merci. Une petite précision. Topphoffen, qui vient d'être cité, est l'homme qui a travaillé avec Beckett, et il y a une édition formidable de Beckett. Elle est trilingue, elle est en français par Beckett, elle est en anglais par Beckett, elle est en allemand par Topphoffen. Et les trois langues sont en juxtalinaire. C'est une des plus belles éditions pratiques de Beckett.
Oui, d'autres questions? Il y a une première question au fond, ou une intervention?
Non, pas de questions, mais simplement quelques réflexions sur tout ce que j'ai entendu. Je voulais d'abord moi aussi féliciter les participants à cette table ronde rectangulaire, parce que j'ai pris énormément d'intérêt. Pourtant, je suis quand même assez familiarisée avec ce genre de débat, j'ai appris pas mal de choses. J'ai trouvé très intéressant ce qu'a dit Christelle Avacero sur le processus de la traduction en mouvement, que moi personnellement je n'ai jamais vraiment connu, et qui doit être passionnant, bien que bon, restreint comme elle l'a dit. Et le problème des surtitrages m'a beaucoup intéressée, mais contrairement à Denise Laroutis, moi je ne serais pas, j'aurais plutôt tendance à privilégier les petits écouteurs, parce que je pense qu'il y a plus de gens qui sont malvoyants que malentendants, et avoir l'œil mobile, en plus on peut écouter en même temps que voir, alors qu'on peut voir à deux endroits différents, et je trouve assez gênant ces placards, et en plus si on met ses lunettes comme moi hier, et qu'on ne connaît pas bien la langue, et qu'on ne connaisse pas bien la langue, c'est très ennuyeux. Donc ça m'a intéressé de savoir que ça pouvait se développer, la solution du voice-over, et puis bon, pour le code des usages, je suis satisfaite et contente de voir que ça aboutit, et de voir qu'on est arrivé à au moins avoir une base, et en espérant que ça servira à éviter de continuer à léser certains traducteurs qui ont eu des expériences assez amères au niveau de captation de droits, ou détournement, ou de non-utiliser la mauvaise édition. Voilà, c'était juste des réflexions que je voulais faire, et remercier encore une fois les participants.
L'élaboration du code des usages a demandé de longs mois, mais il va y avoir des années avant de parvenir à son application. C'est un travail de très très longue haleine. Ça a le mérite d'être un document de référence. Et un document de référence qui a été réfléchi, qui est pensé, et auquel on peut attirer l'attention. Tout à l'heure, Cécile, tu citais le problème de la présence du nom des traducteurs dans les documents de publicité des théâtres. J'ai eu sous les yeux il y a 3 jours un contrat d'éditeur dans lequel l'éditeur s'engage à ce que le nom du traducteur figure en bonne et due place dans l'édition
Et si toutefois c'est possible, dans les documents qui s'engagent, si toutefois c'est possible, c'est une forme d'engagement tout à fait bizarre. Le contrat dans l'ensemble est assez léonin, mais ce paragraphe-là m'a fait beaucoup rire. Donc ça va mettre du temps avant de passer en pratique.
Je voulais juste savoir si les gens qui travaillent pour la maison en qualité sont formés par la propre maison ou vous ne faites pas des stages ou des choses pareilles.
Non, pas vraiment. Ce n'est pas dans notre mission en tout cas. Il nous arrive, enfin, le principe de collégialité peut faire que les traducteurs se cèdent entre eux ou que certains comités de langue importants, disons, recrutant des traducteurs assez régulièrement, enfin cooptant des traducteurs assez régulièrement, que des aînés ou des gens avec plus d'expérience aident de jeunes traducteurs en relisant leur première traduction, par exemple. Mais nous ne faisons pas de séminaire de traduction, non pas qu'on n'aimerait pas, je pense que ça passionnerait bon nombre de traducteurs de la maison Antoine Vitesse, mais dans le cadre de la maison, on n'a pas simplement pas les moyens de le faire, pour le moment.
On a toutefois procédé à une ou deux reprises à des choses extrêmement intéressantes. Notre tutelle, nous avons d'abord la maison Antoine Vitesse, c'est une maison, elle est toute petite, il y a deux pièces, des toilettes, une douche. C'est une toute petite maison. Elle nous est prêtée par M. Frech, le maire de Montpellier. Et la maison Antoine Vitesse, physiquement, ce sont trois personnes et demie, deux personnes et demie. C'est Dorothée Suarez qui passe le micro à l'heure actuelle, qui est en poste fixe à Montpellier. C'est Laurent Mulhaisen qui est en poste fixe à Paris. Et c'est Nelly, une collaboratrice, qui est sur place à Montpellier. Donc la maison existe réellement. Ensuite, ce sont 120 personnalités qui sont intéressées par le travail, qui participent à la vie de la maison, et qui adhèrent à la maison. Et puis il y a une zone floue, il y a des gens qui sont pas forcément des adhérents de la maison, mais qui sont des amis de la maison, qui viennent et qui repartent. Les frontières sont très 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 ouvertes. Nous avons procédé à des choses très intéressantes qui sont, parce qu'on nous reprochait au départ, au niveau des tutelles, c'est-à-dire l'État qui nous finance, nous disait, mais ça va pas, ça, il faut que ça soit aller-retour dans les deux sens. Vous ne pouvez pas être uniquement des importateurs de textes étrangers qui vont saturer le marché français. Vous devez vous occuper de l'exportation. S'occuper de l'exportation, c'est vraiment pas notre métier. C'était une chose extrêmement difficile à faire. Il y a la SACD et la Fondation Beaumarchais pour cela, entre autres. Et il nous est arrivé de nous mettre d'être en rapport avec des grands traducteurs étrangers. Tu as cité Verle tout à l'heure, qui est un des plus brillants traducteurs du français en allemand. Et là, on s'est enrichi très fort par des ateliers qui réunissaient des traducteurs étrangers de langue française et des traducteurs de la maison Antoine Vitesse. Ce n'était pas des séminaires, ce n'était pas de la formation, mais c'était une forme de formation par contact.
Encore une petite information, la maison Antoine Vitesse développe aussi un programme qui s'appelle Européen, un programme européen qui s'appelle Plateforme. Et dans ce cadre-là, il y a effectivement un travail collégial entre traducteurs de 4 ou 5 ou 6 pays, enfin Laurent peut en parler mieux que moi, et où il s'agit de traduire deux pièces de chaque langue dans les autres langues qui participent à ça. Mais c'est du côté français, il n'y a que un ou deux traducteurs qui participent, mais autant dans les autres pays. Mais alors, si j'ai bien compris votre question, ce qui vous intéresserait, c'est est-ce qu'il y a, en liaison avec la maison Antoine Vitesse, des séminaires, des ateliers, des choses comme ça. La maison Antoine Vitesse informe sur quand il y a ce genre d'atelier. Donc je crois que le plus simple, c'est de donner vos coordonnées à Dorothée. Les mails, c'est le plus efficace. Et puis vous recevrez ces informations quand il y en a.
souhaitais parler de la présence dans la salle quand même de Monique Martinez qui anime un atelier de traduction à Toulouse et qui pourrait peut-être en parler.
Ah, vous avez
Vous parlez de l'atelier de Düsseldorf.
Merci Christina.
Non, simplement, monsieur parlait de l'université de Düsseldorf et l'université de Toulouse aussi mène ce travail.
Oui, je m'excuse, je suis arrivée parce que j'étais en séminaire de CAPES avec les étudiants. Donc, bon, moi, je présente un peu notre travail que nous faisons ici depuis 15 ans. Nous travaillons surtout le chaînage découverte d'auteurs contemporains, traduction, édition, représentation, recherche et l'an prochain, même écriture. Donc, c'est une... Nous, effectivement, nous avons créé un atelier de traduction et je reconnais que c'est très difficile souvent de revoir une traduction à 5 ou 6. Nous l'avons fait par 3 fois. Notamment pour la première pièce que nous avons publiée qui a été notre cuisine de Rodrigo García avant la très bonne traduction de Christina. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que la traduction c'est quand même un travail de réécriture, il faut trouver son souffle, il faut trouver son style. Et c'est vrai que travailler à plusieurs, ça demande une méthodologie qui peut-être restera encore à trouver, à mon avis. Donc voilà, je ne sais pas si... donc l'université de Toulouse de Mireille travaille depuis 15 ans et est devenu, je crois, un pôle maintenant assez identifié concernant la traduction de textes hispaniques et je serais ravie d'entrer en contact avec l'université de Seydoux. Merci.
L'expérience a été prolongée aussi avec le département d'allemand de la faculté de Toulouse de Mireille. Je ne sais pas si les deux représentantes de cet atelier qui sont là veulent en parler, mais c'est le moment.
Un petit mot très bref pour compléter ce qu'a dit Monique. Donc, moi je m'occupe du volet allemand en fait avec ma collègue Hilda Endervidi. Et alors, c'est effectivement très intéressant parce qu'on s'occupe également donc à la fois de l'édition, enfin de repérer des auteurs. Donc, on a un comité de lecture qui comporte plusieurs personnes qui s'intéressent au théâtre allemand contemporain, de langue allemande. Et également, donc, une collection a été créée au PUM, au Presse universitaire du Mirail. Donc, il y a une collection hispanique et puis une collection qui s'appelle Nouvelle Scène Allemand. Donc, là, nous en sommes à notre troisième titre. Cette année, donc c'est une jeune collection, j'espère qu'elle va encore s'enrichir au fil des années. Donc c'est une édition qui est bilingue, comme l'édition donc espagnole. Ça c'est très très important pour nous d'avoir le texte en miroir, donc l'allemand et le français, et également qu'elle soit préfacée et annotée. Voilà. Et puis donc le dernier élément, c'est la représentation, puisqu'on tient beaucoup à faire jouer du théâtre allemand contemporain par notre troupe universitaire à l'Université du Mirail, comme pour les anachroniques en espagnol. Et donc cette année, nous nous lançons pour la première fois dans une expérience de surtitrage, donc d'une traduction que nous publions à Nouvelle Scène Allemand et à laquelle donc, nous associons les étudiants de DESS de traduction et d'interprétation. Voilà, donc certains sont là dans la salle, donc c'est une grande première pour tout le monde. Personnellement, j'avais déjà été traductrice et interprète, mais j'avais jamais fait de surtitrage. Donc c'est vraiment je pense qu'on va peut-être essuyer quelques plâtres cette année, mais c'est une expérience vraiment passionnante pour nous. Je crois aussi pour les étudiants, c'est très formateur de retravailler donc le texte des traducteurs. Traduction à laquelle Hilda Endervidi et moi-même avons collaboré. Donc c'est une traduction que nous connaissons déjà bien et que nous essayons de condenser, peut-être pas assez d'ailleurs en vous écoutant, je dis qu'on a perdu trop de textes. Mais voilà, donc ce sera une expérience, je pense, intéressante. Je ne sais pas si Hilda, j'ai oublié quelque chose.
Et on peut peut-être ajouter que chacune de nos traductions fait l'objet d'un atelier.
Pardon, je crois que les interprètes ne peuvent pas vous entendre.
Pardon.
Si vous n'avez pas de micro. Félicitons l'interprète français vers l'espagnol qui a travaillé pendant 2h30. Et notre ami espagnol français peut beaucoup à faire.
Oui, je voulais simplement ajouter que chacune de nos traductions, de nos publications, donc de nos traductions, fait l'objet d'un, d'un atelier durant lequel on essaie de revoir l'intégralité de cette traduction avec, si c'est possible, la présence de comédiens pour lire le texte. Donc on fait également cette expérience, donc comme dit M. Loretta, je ne sais pas si j'ai bien retenu votre nom, et qui est effectivement, qui est effectivement fondamentale pour ce genre de traduction et pour la spécificité du texte théâtral. Et on essaiera dans un temps proche d'associer également plus d'étudiants à ce genre de travaux.
Il y a, dans les problèmes de formation, il y a aussi une unité à Orléans qui travaille sur des problèmes de traduction. C'est peut-être eux qui seraient le plus proche d'un point de formation à Orléans, j'ai l'impression.
Oui, avec des ateliers qui réunissent des profs de fac, des profs de lycée et des étudiants autour de problèmes de traductologie, spécifiquement dans le domaine théâtral.
Il y a un point dont on n'a pas parlé depuis 7h30, depuis 2h30, il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui nous semble extrêmement... C'est un point très très délicat pour nous tous. La terminologie diplomatique parle de langues rares, des langues dont les phonateurs sont en nombre très restreint et qui sont menacées de disparition. Et qui essayent de se défendre plus ou moins bien, parce qu'il y en a certaines qui adoptent systématiquement l'anglais lorsqu'ils nous écrivent, ce qui est un truc fonceux. J'ai de gros problèmes avec une de mes camarades catalanes, qui est l'impresario de Carles Santos. Et elle s'appelle Marta Oliveres, et elle m'envoie parfois des choses en yankee. Et je lui retourne le mail en lui disant « Marta, en catalan, en auvergnat, en français, en castillan, mais pas en yankee. » Ça, la lutte que nous devons mener dans le monde théâtral, les Italiens sont catastrophiques pour ça, la lutte que nous devons mener pour qu'on n'utilise pas l'anglais comme koiné, c'est un problème absolument de fond. Il y a des langues rares et très souvent, nous sommes amenés, les traducteurs de ces langues sont amenés à travailler à quatre mains, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un phonateur traducteur de la langue qui se met à travailler avec un français. Et ça, c'est un cas très spécifique de travail, c'est un problème fort intéressant. Nous avons une amie hongroise qui est une très bonne traductrice et qui traduit avec un ami français en permanence. Tu as le même cas en lituanien maintenant. Et moi, il m'arrive d'intervenir avec une amie qui est de langue serbo-croate et qui fait les traductions de serbo-croate en français. Et tout ceci était pour vous dire que notre camarade Loaiza, ici présent, représente à cette table l'Union des théâtres de l'Europe et que cette union de 19 ou 20 théâtres de taille très importante en Europe a pris la décision l'an dernier de faire traduire 5 pièces de 5 langues rares dans 5 langues majeures et d'éditer parallèlement toutes ces traductions. C'est-à-dire qu'il y a un auteur hongrois qui est édité en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Et il y a eu donc 25 petits livres qui ont été publiés et nous aimerions bien, moi j'aimerais bien que l'Union des théâtres de l'Europe poursuive cette démarche parce que c'est une démarche qui permet de désenclaver des langues que nous ne parlons pas.
Ah, il est 13h30. Et alors, il y a peut-être encore une question ou deux, puis je vais manger.
Bonjour, j'aimerais vous poser une question. C'est d'entre vous qui traduisent et du théâtre et des romans. Quelle est la différence au niveau de la liberté que vous avez? Est-ce qu'il y a une différence entre les cas ou est-ce qu'il n'y en a pas?
Non, il n'y a aucune différence dans la mesure où c'est... Enfin, il y a la différence qu'il y a entre le théâtre et le roman. Cette différence-là, on l'assume en tant que traducteur dans la mesure où on commence à traduire. C'est toujours un texte fondé sur des mots, sur un souffle, sur une écriture, sur ce qui fait la substance d'un texte. Et quel que soit le parti, ça me paraît c'est la substance même de la traduction qui est en jeu là. Et on a parlé tout à l'heure du travail qu'il fallait faire avec le plateau pour le théâtre, avec le travail qui devait se faire au moment de la mise en scène avec la phonation, avec les acteurs, avec la mise en scène, avec la représentation. Pour le roman, ce travail ne se fait pas. En revanche, on a tout un travail qui se fait au moment de, par exemple, de la correction des épreuves, où le texte imprimé, peut-être est-ce un moment aussi pour le texte imprimé au théâtre, c'est aussi un moment pour le texte imprimé au théâtre, mais le texte apparaît sous une nouvelle forme, apparaît porté par un nouveau support, ce qui lui donne une autre nature, ce qui lui donne une autre chair. Et là, il y a aussi tout un travail qui va être fait de reprise en main du texte dans sa nouvelle configuration d'objets passés par la technique et offerts sous une autre façon d'être texte au traducteur. Là se refait tout un travail. De même, pour le travail théâtral, effectivement, il y aura un travail qui sera différent parce que, oui, ça s'ouvre sur une dépossession, au fond. À ce moment-là, c'est une dépossession qui se fait du travail du traducteur. Il passe à autre chose. Et peut-être a-t-il encore son occasion d'intervenir dans le travail qui se fait au théâtre, mais c'est un travail différent. Je pense que dans la phase de traduction, en fait, c'est la même chose. Et je pense que le travail, le traducteur honnête, empreint de son travail, va traduire de la même façon. Peut-être qu'après, il y aura une autre chose à faire, peut-être qu'après, il faudra retravailler autrement parce qu'il y a d'autres gens qui vont intervenir, parce qu'il y a un autre travail qui se fera, mais ce n'est plus son travail à lui, c'est un autre travail, un autre corps qu'il va revêtir pour travailler avec les autres. Mais la solitude du travail du traducteur, je pense qu'elle est la même devant les deux textes. Tout ceci m'étant venu au fur et à mesure que je le disais, et en me remémorant le travail que je pouvais faire. Mais je crois que le travail du traducteur, quel que soit le texte de départ, il est le même.
Est-ce que tu travailles au traitement de texte?
Oui. Et j'ai commencé avec la machine, je peux te dire que c'est quand même beaucoup plus...
Le phénomène que tu viens de décrire, parce qu'on a les épreuves sous les yeux, le traitement de texte va dans ce sens. Tu as une espèce d'objectif.
Il y a une phase supplémentaire. Mais quand même, quand on a les épreuves, c'est autre chose. Et même quand on a le livre, c'est encore autre chose. Et c'est là qu'apparaissent des moments fatals, qu'apparaissent ce qu'on aurait voulu qu'ils n'apparaissent pas. Ou peut-être aussi des bonnes surprises.
Je voudrais juste ajouter aussi qu'il me semble que chaque texte porte en lui son système de traduction et que finalement il peut y avoir autant de différences entre deux auteurs de théâtre qu'entre tel auteur de théâtre et tel auteur de roman, entre telle pièce et tel roman. Deux auteurs de théâtre ne vont pas forcément être traduits de la même façon, parce qu'après, oui, le principe de traduction est le même. Ensuite,
Oui, non, c'est sur la façon de la traduction.
Voilà, la façon d'aborder la traduction.
Bien sûr, chaque texte porte un auteur.
Donc, on ne va pas non plus traduire de la même façon deux auteurs, même s'ils abordent tous le même genre. Mais
c'est d'ailleurs ce qui fait tout l'intérêt de la traduction, c'est que chaque fois, on recommence vraiment. Pas à zéro, parce qu'il y a, il y a des choses que l'on sait. Mais si, il faut trouver quelque chose à chaque fois qu'on aborde un texte. Il y a quelque chose, un trésor qui est là-dedans caché, et qu'il faut aller chercher. Et donc ça, c'est le travail du traducteur. Quel que soit le poème, théâtre. Je pense que ce qui a le plus de spécificité, au fond, c'est le travail... qui demande une autre technique, c'est le travail de traduction de la philosophie et le travail de traduction des sciences humaines qui sont fondées sur autre chose. Mais enfin bon, il y a le travail de traduction tout de même.
Je me demandais si le fait de savoir que le texte est entendu, plutôt que lu, si ça avait une incidence sur le choix des mots, tout simplement. Parce qu'un mot.
Oui, mais on se. On se on est tous un peu flaubertiens. Même un travail d'écriture de romance, on se le dit, il y a aussi cette phonie, on voit aussi ce rythme, ce souffle, on va le rechercher aussi. Oui, il y aura une phase supplémentaire pour le théâtre, mais pour le roman aussi, on cherche ça. Bon, effectivement, je ne peux pas dire non plus, je ne veux pas m'arbouter sur ma position, mais bon, quand même, pour le travail du roman, il y a aussi cette recherche de la coulée, du rythme, de la cassure, de l'interruption, du rythme, de ce qui fait la richesse d'un texte. On va la chercher aussi dans le roman. Je pense. C'est une autre distance. Alors c'est une autre distance. Je crois que en fait c'est ça la plus grande différence entre le roman et le théâtre, c'est que le théâtre a toujours une forme au fond, sauf quelques pièces de mesures exceptionnelles. C'est quand même modulé au fond dans un temps particulier, alors que le roman n'a jamais ce temps modulé. Le roman c'est un flot, ça peut courir sur une distance incommensurable, on ne peut pas la mesurer, sauf quelques cas particuliers du théâtre où on va chercher, ça c'est autre chose.
Pour vous apporter un petit morceau de réponse, dans l'un des dangers pour le traducteur de théâtre, l'un des dangers c'est d'avoir, à travers toutes les œuvres qu'il traduit, un phrasé unifié. Quelqu'un qui traduit énormément, et petit à petit, on reconnaît des phrasés. Par exemple, dans la traduction tchékovienne, il y a un phrasé Markovitch. Et le phrasé Markovitch consiste à rompre la syntaxe, à rompre systématiquement, phrase après phrase, rompre systématiquement la syntaxe, mettre un sujet antéposé, une virgule, et reprendre avec un pronom qui reprend le sujet. Donc, il y a une brisure de la syntaxe qui est la façon dont parle Markovitch. Et à un certain moment, vous pouvez reconnaître certains traducteurs de théâtre à leur phrasé. Donc ça c'est, je pense, légèrement différent de la prose. Et pour aller dans le sens de Christina, dans les surtitres, il n'y a pas deux surtitres qui posent le même problème. Il y a des pièces où il va falloir beaucoup surtitrer. On ira à 1500, 2000 tops en 2 heures. Et il y a d'autres moments où on sera beaucoup, beaucoup plus concis. Ce sont toujours des cas individuels.
D'autres questions, non, Jacques, tu voulais
dire quelque chose pour, justement, ayant traduit le roman et du théâtre, je pense que c'est une position assez saine de se mettre dans la position du traducteur, sans savoir si on est théâtre, si on est... roman, et d'aller là de l'avant, et je pense que ça ne peut que enrichir le travail, c'est-à-dire donner la priorité au texte.
Oui, moi j'étais très heureux de suivre toute la réunion. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on va défendre les traducteurs de théâtre par ce code, je crois qu'il est quand même très important de réaffirmer que la traduction est un acte poétique. C'est très important d'affirmer ça. Donc, ça veut dire quand même que des poètes, parce que c'est un peu ce que j'ai entendu en filigrane, que des poètes qui ne sont pas traducteurs de métier, disons, peuvent traduire. Et je crois qu'il faut faire attention que ce ne soit pas simplement un corps de métier de traducteur de théâtre qui se défend. S'il faut défendre le traducteur de théâtre, il faut défendre la traduction comme art poétique, c'est absolument. Donc, il faut ouvrir la porte, je parle en préambule, en disant aussi que les poètes, s'ils connaissent la langue, ce n'est pas le cas, je viens de Noir, etc., les poètes qui connaîtraient la langue, ou qui pourraient éventuellement travailler un traducteur, je fais allusion à la traduction de la Bible, où les poètes sont associés à des traducteurs qui connaissaient très très bien la langue et qui étaient des spécialistes de la Bible, qui ont travaillé avec des poètes. Donc, je pense aussi qu'il faut donner, réaffirmer en préambule cet acte poétique. Parce que sinon, on peut glisser, vous voyez ce que je veux dire. Qu'un metteur en scène comme Chéreau fasse appel tout d'un coup à un poète comme Guinevere, pourquoi pas, enfin, on ne peut pas non plus, même si c'est trop, c'est pas une anthologie que je comprends bien, hein. On ne peut pas non plus l'évacuer. Voilà. Donc peut-être y penser dans un préambule, enfin, pour bien réaffirmer que c'est un acte qui nous dépasse tous.
Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques Michet, pourquoi ne pas faire appel alors à des poètes traducteurs directement qui connaissent parfaitement la langue sans passer par l'intermédiaire d'un défricheur qui offrait.
Non, mais pour moi, les traducteurs de la maison de Tolkien sont des poètes. Hein. Je veux pas les autres. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut défendre l'acte poétique de la traduction. Donc accepter que les poètes qui ne sont pas des traducteurs d'habitude soient aussi des traducteurs. Là, il faut l'impression qu'il faut le réaffirmer dans un préambule pour éviter un glissement.
Marie
Raymond
voulait intervenir.
Juste par rapport à ce que disait Jacques, effectivement, il y a des textes qui sont diffusés à l'étranger. Et les auteurs ont le souci de savoir qui va traduire. Ça, c'est vraiment leur premier souci. Et par exemple, quand vous demandez à Valère Novarina pour l'Amérique latine, il répond, c'est très très simple, il faut tout de suite appeler Fernando Gomez Grande, ici présent. Donc c'est Valère Novarina, grand poète, c'est sa réponse. Ou d'autres diront, il faut chercher un grand auteur, enfin, mais qui connaisse bien mon œuvre, ou un poète, ou... Donc les clés d'entrée sont multiples, mais toujours avec une exigence assez élevée. Voilà. Et je me souviens, quand j'étais à Madrid, et avec Michel Pinaver et Fernando, et Michel Pinaver avait dit à Fernando, c'est une conférence de presse, il avait dit Fernando Gomez Grande est l'auteur français de mon œuvre. Donc il replaçait la... C'est l'auteur espagnol, pardon, l'auteur espagnol de mon œuvre. Et quand vous entendez Lobo Antunes, il dit que son traducteur est l'auteur en France aussi. Donc il y a cette place particulière.
Jacques, pour reprendre ce que tu dis, les débats ont été assez longs à l'intérieur de la maison pour lancer cette tentative de charte. Avec chez nous tous une crainte de réaction corporative ou de clôture. Mais le problème est grave à certains moments. Tu le sais très bien, le travail des traducteurs est minoré. Tu prends une brochure du Théâtre de la Colline, le nom du traducteur n'y figure jamais. Les traducteurs sont ignorés systématiquement dans un des plus grands théâtres qui montent du théâtre contemporain. Et c'est une volonté, parce que les traducteurs pour eux n'existent pas. Et c'est un problème. Les contrats d'éditeurs sont monstrueux. Les contrats, l'un des plus grands éditeurs de théâtre ne respecte pas la législation française et vous fait signer deux contrats et non pas trois. Il vous fait signer un contrat pour les droits dérivés, ce qui est tout à fait ce qui est légal, mais il vous fait signer conjointement un contrat pour le droit d'édition et de représentation théâtrale, ce qui est illégal. Il doit y avoir trois contrats. Et pourquoi il réunit les deux droits ? Parce qu'il ne vous paye pas les droits d'édition tant que la pièce n'est pas représentée et qu'il ne fait pas rentrer par la SSCD les droits qui vont lui permettre. Autrement dit, le traducteur fait la trésorerie de l'éditeur. C'est face à ces choses-là, et face aussi à d'autres choses, on cite nommément les cas, l'un de nos traducteurs d'anglais a sorti une traduction d'une dramaturge écossaise. Cette traduction a été prise par un jeune metteur en scène à la mode. Elle a été utilisée pour obtenir du Festival d'Avignon un accord que le Festival d'Avignon a donné au vu de la traduction faite par le traducteur de la maison Antoine Vitesse. L'Adami a eu la même réaction que le Festival d'Avignon. Ils ont donné leur accord à cette traduction. Une fois que ce metteur en scène a eu l'accord du Festival d'Avignon et l'accord de l'Adami pour le financement de l'Adami, il est allé voir l'auteur en disant « La traduction est mauvaise, je suis bien meilleur traducteur, vous abandonnez le traducteur d'origine, vous me donnez les droits de traduction, je vais leur traduire. » Et comme le titre était un titre très compliqué et très bien trouvé, il a voulu garder le titre du traducteur d'origine et nous avons été en conflit extrêmement grave avec une crapule. Parce que ça, ça s'appelle une crapulerie. C'est à cause de tout cela que nous sommes amenés à ça.
Non, non, mais j'approuve la réponse. Oui.
Non, non, mais... Et, comme acte le rappeler comme acte poétique, il y a l'anecdote très très connue des Anglais qui disent aux Russes, vous avez une chance énorme, vous jouez Shakespeare dans la langue de Pasternak. Bon, c'est exactement ce que tu défends.
Ça pose pas de problème, d'autant que vous avez vous-même donné la limite et qu'elle est dans la section 2, c'est connaître la langue source. Donc, oui, c'est bien, moi je pense, de proposer en préalable.
On va être obligé d'arrêter. Donc, je redonne la parole à Dorothée.
Bon, simplement, je vous remercie d'avoir été là. Et c'est vrai qu'on est obligé de se déplacer jusqu'au TNT et on nous attend pour déjeuner. Merci beaucoup.